Bonsoir, bienvenue à vous dans ce groupe sur les enseignements non duels et qui comprennent et qui incluent aussi ce gros livre bleu, Un cours en miracle, et bien d'autres. Devant moi, j'ai Dialogue sur l'éveil. Voilà, nous sommes le lundi 31 janvier. Et j'en profite pour accueillir tous les frères et sœurs qui nous écoutent en ce moment avec nous sur leur ordinateur, sur l'enregistrement. On va faire un petit partage du moment présent de quelques secondes et nous commencerons. Merci. Alors sans plus tarder, je vais dédier cette soirée à l'esprit, le déroulement de la soirée, puisque je ne sais absolument pas comment ça va se passer, où ça va emmener le partage, et c'est très bien comme ça. Je me réjouis de ne pas avoir le programme et de le découvrir seconde après seconde. Et je vais dédier cette soirée grâce à 5 phrases issues de la page 30 de Un cours en miracle et qui disent « Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai pas à me soucier de ce que je dirai ni de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis heureux d'être là où il souhaite que je sois, sachant qu'il y va avec moi. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. » Voilà, je suis en même temps fatigué du week-end que j'ai animé et en même temps pétillant de joie d'animer cette soirée, d'organiser cette soirée plutôt que d'animer. Voilà, je ressens à travers peut-être un peu l'actualité comme une accélération, mais c'est comme si ça m'entraînait, ça me rappelait que voilà, nous allons de plus en plus vers qui nous sommes et que le temps semble s'accélérer, les événements semblent s'accélérer. Et je pressens ça, je pressens qu'il y a comme un jeu de domino cosmique qui tombe les uns après les autres et j'observe tout ça. Sans vraiment le prendre au sérieux, ça me fait rire aussi. Et ça me réjouit aussi, parce que c'est un jeu, une belle pièce de théâtre bien orchestrée pour le bien de chacun. Alors ce soir, j'ai été guidé à choisir une phrase pour donner une direction initiale à la soirée. On peut choisir de partager à propos de ça ou pas. Et ça se trouve dans Un cours en miracle, à la page 478 du livre d'exercice pour étudiants, dans la version française. Et c'est la question 11 qui se trouve entre deux leçons, en fait. Et la question 11, c'est une des 14 questions que je diffuse avec l'invitation à venir à ces soirées. Qu'est-ce que la création ? Et j'ai trouvé assez parlante cette question, spécialement au moment où j'ai ouvert ce livre, cette page. Et ça dit « La création est la somme de toutes les pensées de Dieu. » Déjà, cette phrase est magnifique. « En nombre infini et partout sans toute limite. Seul l'amour crée est seulement pareil à lui-même. » Il n'y eut jamais de temps où tout ce qu'il a créé n'était pas là. Il n'y aura pas non plus de temps où quoi que ce soit qu'il a créé subira quelque perte que ce soit. pour toujours et à jamais, les pensées de Dieu sont exactement telles qu'elles ont été et telles qu'elles sont, inchangées à travers le temps et après que le temps soit terminé. J'adore le « après que le temps soit terminé ». Mon ego est complètement pris à rebrousse-poil. Parce que s'il n'y a pas de temps, alors après que le temps soit terminé, qu'est-ce qu'il y a? Dixit mon ego. Hein, dixit mon ego. Et en même temps, je peux aussi être inspiré à dire que dans la bulle de temps illusoire que j'ai créée, dans lequel je manifeste aussi mon corps et dans lequel aussi l'espace a été fabriqué par mon ego pour vivre des expériences, qu'en dehors de cette bulle-là, y a l'éternel maintenant. Et cet éternel maintenant, il ne se conjugue pas au passé ni au futur, puisqu'il est tout le temps dans le maintenant. Et en vérité, je peux aussi dire que je vis là-dedans, je vis dans l'éternel maintenant. Si je ne mets pas mon ego, mon système d'analyse en route, mon super ordinateur qui calcule des stratégies, qui se réfère à des mémoires, qui se réfère à... qui projette dans le futur, qui se réfère à des choses qui ne sont plus là, mais qui ont été, alors je suis dans l'éternel présent. C'est-à-dire qu'il n'y a rien que je fasse que je ne puisse faire qui ne soit pas dans le présent. Hein, je fais quoi que ce soit dans le maintenant, disait Eckhart Tolle. Donc il y a une semaine, ce que j'ai fait, c'était le maintenant. Et dans une semaine, quand je le ferai, ça sera le maintenant. Et si je reste dans ce maintenant-là, dans le maintenant, il y a l'éternité. Pour moi, c'est flagrant, c'est évident. Parce qu'il y a toujours le maintenant. Et il y aura toujours le maintenant. Et pour moi, c'est ça, l'éternel présent, l'éternel cadeau à se faire, hein, le présent. Voilà, dans cette leçon, dans cette question 11, il y a beaucoup de choses pour moi qui sont extrêmement parlantes, puissantes. La création est la somme de toutes les pensées de Dieu, en nombre infini et partout sans toute limite. Il y a déjà beaucoup qui est dit. Hein. Donc, ça parle bien du fait que ma pensée en tant que être divin crée. Ce que je suis, expand ce que je suis, et que ma pensée fait partie de la pensée de Dieu, puisque je crée à l'infini, partout sans toute limite. Donc il n'y a pas de temps, il n'y a pas non plus d'espace pour limiter ça. Même si je perçois ça. Voilà, je peux aussi continuer en citant deux mots qui ont de plus en plus de puissance pour moi dans ma vie et qui résument toute vérité au sens où Jésus les employait il y a 2000 ans et où Gary Renard les a cités dans son livre « Et l'univers disparaîtra » et ces deux mots sont « Dieu est ». Et ça rejoint bien le texte de la question 11, dans lequel tout se passe dans le maintenant, et Dieu est tout ce qui est. Hein, et c'est l'extension de la pensée de Dieu qui crée en permanence avec ce pouvoir divin qui crée en permanence toujours plus basé sur l'amour. Donc si Dieu est tout ce qui est, immédiatement je rajoute, Dieu ne peut s'opposer à rien. Et moi en tant qu'être divin, quand je suis bien connecté à qui je suis, à l'esprit pur, à mon inspiration, à mon cœur, alors je suis tout ce qu'il y a, je ne peux m'opposer à rien dans cet état-là. Bien sûr, dans mon ego, je vais chercher des tas de raisons de m'opposer à tout et à n'importe quoi, à la politique, à ma femme, à mes enfants, mes parents, à tout ce qui bouge, à l'univers, voilà. Mais quand je dis Dieu est, je peux trouver une véritable paix dans ces mots, puisque comme si l'océan pouvait s'opposer à une de ces vagues ou le soleil à un de ses rayons. Je trouve que ces comparaisons sont magnifiques. Ça ne se conçoit pas, que Dieu s'oppose à lui-même non plus, je ne le conçois pas. Donc quand je suis dans l'esprit de Dieu, c'est-à-dire dans l'amour pur, inconditionnel, il n'y a rien que je ne puis accueillir dans cet amour-là. Et ça contredit complètement les principes de fonctionnement de l'ego, ce qui se croit séparé. Et par nature, ce qui se croit séparé s'oppose, puisque mon ego se croit séparé de la pensée de Dieu, donc il va s'opposer, puisqu'il y a la pensée de Dieu, et puis moi en tant que ego. Donc impossible depuis l'ego de trouver cette paix-là qui dit « je ne m'oppose à rien », puisque le principe même de l'ego, c'est l'opposition. Ce qui a fondé l'ego, ce qui a fabriqué l'ego, c'est l'opposition. C'est aussi la croyance qu'il peut y avoir autre chose que Dieu. Donc, tant que cette croyance est là, il n'y a pas de solution dans le sens de tout accueillir, puisque l'ego, c'est ne pas accueillir, justement. L'ego, c'est ne pas accueillir que tout est un. Si l'ego accueillait cette pensée-là que tout est un, cette vérité-là que tout est un, et ce dont nous n'arrêtons pas de parler, et même de répéter inlassablement pendant cette soirée, tout est un, Dieu est un, je suis un, mon Père et moi sommes un. Si l'ego pouvait admettre cette phrase, en cette seconde même, il cesserait de se manifester en tant que pensée séparée. Puisque dans tout est un, il n'y a plus rien de séparé. Justement. Donc ça peut être un très bon point de départ, Dieu est, pour vérifier qu'est-ce qui en moi résiste à cette pensée, qu'est-ce qui en moi croit encore qu'il y a Dieu et autre chose, que Dieu est extérieur, que Dieu peut me sauver ou me condamner, ou être jaloux, ou me punir, que je suis coupable vis-à-vis de Dieu. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent découler de Dieu est. Quand je dis Dieu est, alors il n'y a plus de culpabilité, puisque c'est vraiment du domaine de la séparation. Il n'y a plus non plus de peur, il n'y a plus non plus de conflit, donc c'est la paix. Il n'y a plus non plus de passé et de futur qui sont aussi du domaine de l'ego, espace et temps. Et donc je suis dans l'éternel, dans l'éternité, dans l'éternel présent. Et il n'y a plus d'espace, donc je ne suis plus à un endroit en particulier. Je suis partout à la fois, je ne suis pas en un endroit. Il n'y a plus d'endroit où être. Donc c'est immense, hein, c'est vrai, véritablement immense. Et avant de terminer cette petite introduction, ce petit partage, quelque chose qui est fortement en relation avec ça, je l'ai trouvé tout à l'heure, dans Dialogue sur l'éveil, un très beau livre à la couverture toute blanche, enfin, il y a une autre édition, mais celle-là, c'est les éditions Vésicapicis, je crois. Il y en a quelques-uns ici, pour ceux qui veulent l'acquérir, c'est vraiment un livre magnifique, hein. Le sous-titre Communion avec le Christ. Et ça a été reçu par Tom et Linda Carpenter aux USA et traduit par Sylvain Duboulet, ici présent. Et alors, j'avais trouvé une citation magnifique. Ce livre est très facile à lire, hein. Un cours en miracle est très beau, mais très dense. Et parfois j'ai besoin de relire plusieurs fois la même phrase. Mais celui-là, il est beaucoup plus actuel, un peu plus récent. Et puis, il est formulé sous forme de questions-réponses qui rend sa lecture assez, assez facile. Tenter d'atteindre, alors c'est en page 24, hein, et c'est la tête de chapitre, c'est équilibre. Voilà. Alors, peut-être je pourrais lire la question parce que c'est la réponse à cette question. Tom Carpenter, c'est Tom ou Linda, je ne sais pas, mais peu importe, nous demande à Yeshua, hein, pourrais-tu nous parler de l'équilibre? Comment vivre sur Terre dans un corps tout en étant conscient de la réalité de qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire une extension de Dieu? Et Yeshua répond, tenter d'atteindre un sentiment d'équilibre entre l'infini et le fini est un peu comme jongler à la fois avec des plumes et des boules de plomb. Suivre les évolutions d'une plume insensible à la force de gravité du monde fait naître un sentiment caché de joie profonde. Et puis, ton ego te crie à l'oreille qu'une boule de pétanque va te tomber sur la tête parce que tu suis l'évolution des plumes au lieu de t'occuper, entre guillemets, du monde réel. Tu vois que ces deux choses sont incompatibles parce que tu tentes de les réunir. Ton intellect n'accepte pas l'idée qu'une boule de pétanque puisse être portée par une plume. L'infini et le fini sont incompatibles. L'un existe et c'est la vérité. L'autre n'existe pas et n'est qu'une illusion de la vérité. Voilà, ça me parle bien de ce que le cours nomme le monde réel, la réalité avec un grand R, et le monde de l'illusion, où les choses sont finies, où les choses sont apparemment séparées, et c'est pas possible de concilier les deux. Je peux avoir l'intuition de ce que c'est, mais vivre la réalité, ça suppose choisir la réalité et rien d'autre. Et vivre l'illusion, ça veut dire que je crois à la séparation et je vis la séparation. Donc on ne peut pas suivre deux maîtres à la fois, hein, donc on nous demande de choisir entre vérité et illusion, entre jongler avec des boules de plomb et des plumes en même temps. Ça paraît difficile à faire en effet. Voilà, c'est assez parlant pour moi, et comme nous parlions d'éternité et puis de temps, nous parlions d'infinité et d'espace, de réalité et d'illusion, de séparation et d'unité, eh bien ça me paraissait tout à fait adéquat de citer cette belle phrase. Voilà, sur ce, j'ai parlé.
Cette notion de vérité et illusion, et cette notion de temps qui disparaît, c'est pas le temps qui disparaît en tant que tel, c'est la vision que nous en avons. Et le temps cesse, le cours en miracle parle souvent du moment où le temps cesse, en fait c'est la vision que le temps n'existe pas. Tant que j'ai la vision, c'est-à-dire la sensation, vérifiée par mon expérience, donc dans mes croyances, que je vis un temps linéaire et que le passé s'est réellement produit et que le futur va arriver et il va se produire des choses dans un temps linéaire, pour moi le temps existe. Si ma vision est changée, le temps cesse. Si je vois qu'il n'y a pas de temps, si je le vois vraiment, si je suis complètement dans l'instant présent, et si je n'ai plus de culpabilité par rapport au passé et plus de peur par rapport au futur, eh bien, le temps disparaît. Vraiment. Je joue le jeu d'un temps apparent, Je regarde ma montre, je dis il est midi 10, etc. Je prends un billet d'avion pour la semaine prochaine, mais je le fais toujours dans l'instant, conscient que c'est un jeu. Et je suis libre dans le jeu, et j'ai vraiment la notion, la conscience, que je suis toujours dans l'instant présent. Comme disait Avi tout à l'heure, le passé et le futur se vivent toujours au présent. Donc c'est toujours le présent. Et dans ce présent, qu'est-ce qu'il y a? Et il y a effectivement Dieu est. Et il n'y a que ça. Il y a non-séparation. Et cette non-séparation, ce Dieu est, c'est quoi? C'est l'amour. Et l'amour, c'est accueil de tout. Donc, effectivement, Dieu ou l'Esprit ou qui nous sommes, le Christ que nous sommes, ne s'oppose jamais à rien. Donc, ça ne s'oppose jamais à rien. Alors, ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que si vraiment j'admets la vérité, et je veux jouer le jeu de la vérité, jouer le jeu de l'amour, je ne m'oppose à rien. Et en particulier, comme nous voyons une société perturbée, nous voyons des changements, des bouleversements, et nous observons nos frères et sœurs ainsi que nous-mêmes qui sans cesse avons des jugements par rapport à la valeur de ce qui se passe. Et on dit bonne nouvelle, les gouvernements s'effondrent. Bonne nouvelle, ceci, cela. Mais il n'y a pas de bonne nouvelle. Est-ce que Dieu va dire bonne nouvelle? Dieu n'est que joie infinie. Et il n'y a pas d'opposé. Il n'y a qu'un regard d'amour. Et je suis heureux de partager ça parce que je vais prendre un petit exemple. Juste avant ce groupe, j'étais chez moi et j'ai reçu un appel téléphonique d'une démarche commerciale par un serveur de téléphone. Donc j'avais repéré que c'était une démarche commerciale, donc j'ai décroché, il y avait appel masqué, et puis j'ai raccroché. Ensuite, évidemment, j'ai été rappelé quelques secondes après et j'ai pris le téléphone. Et en fait, j'étais agacé sur le moment par les démarches commerciales, mais pas par les personnes qui m'appelaient. Et donc, il m'a dit, nous avons été coupés. Et je lui ai dit, c'est moi qui ai raccroché. Cette femme n'a pris personnellement, et elle m'a dit, ça ne vous intéresse pas, d'accord, vous auriez pu simplement me le dire et pas me raccrocher au nez. Et elle m'a raccroché au nez. Bien. Et donc, j'ai tout de suite vu que c'était une leçon. Pendant quelques secondes, j'étais pas très bien avec ça. Et puis, peu à peu, je me suis détendu et j'ai commencé à ressentir cette notion d'amour. J'ai accueilli le fait que cette femme jouait un rôle parfait pour me montrer quelque chose et m'appeler à l'amour, mais vraiment. Et je me suis dit, mais effectivement, la seule chose que nous fassions, c'est être dans l'amour. Et avec tout ce qui se passe et ce qui va sembler se passer dans le futur, dans les mois et les années qui viennent, eh bien, la seule démarche, le seul état d'esprit qui ait un sens pour nous, c'est d'accueillir ce qui se passe dans l'amour. Et jamais dans le jugement. Jamais. Nous ne savons pas et nous cessons de dire c'est bien, c'est mal, tant mieux les gouvernements tombent, tant mieux il va y avoir un nouveau système monétaire ou d'autres choses, etc. C'est pas tant mieux. Il y a émerveillement, il y a amour, et c'est la seule chose qui a un sens, c'est l'attitude d'amour, c'est-à-dire l'attitude d'accueil. Et de vraiment considérer que tous nos frères et sœurs, sans exception, ne sont qu'amour. Et tout à l'heure, Avi a démarré ce groupe avec la question numéro 11, qui est « Qu'est-ce que la création ?» Et dans cette question, eh bien, Jésus nous dit... C'est la somme infinie de toutes les pensées de Dieu. Comme Dieu n'est qu'amour, et que nous sommes créateurs, parce que nous sommes fils de Dieu, donc nous n'avons qu'une pensée ou des pensées infinies d'amour, il n'y a que ça qui a un sens. Et vraiment, disons le défi fantastique de notre expérience humaine, c'est ici, dans cette expérience, où tout est fait pour prouver que la séparation existe, eh bien, la seule attitude qui a un sens, c'est une attitude d'amour 24 heures sur 24. envers n'importe quoi, n'importe quel événement, envers quoi qu'il se passe. Être dans l'amour, choisir l'amour, choisir l'amour. Et avant de venir ici, justement après cet appel téléphonique, j'ai pris ma voiture, j'ai roulé dans les embouteillages, le périphérique extérieur était un peu saturé, et je demandais de l'aide pour rester centré dans cet amour, et que je ressens d'ailleurs là, avec le groupe qui est ici, avec ceux qui nous écoutent, qui écoutent l'enregistrement, et puis aussi avec tout le reste de nos frères et sœurs sur cette planète. C'est vraiment sans concession. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'humour, parce qu'on s'aperçoit que quelque part on n'y arrive pas, qu'on est tout le temps, très souvent piégé par des pensées de jugement, et c'est ok. Nous avons accepté de vivre un défi, où nous avons accepté de plonger dans l'obscurité, et c'est tout à fait, entre guillemets, naturel que temporairement, dans un temps illusoire, on ait des pensées de jugement. L'important, c'est de les accueillir, justement, d'aimer tout ça, d'aimer ce jeu, donc de nous aimer nous-mêmes dans le jeu, et d'aimer tous nos frères et sœurs, y compris les, ce qu'on va appeler les grands méchants leaders politiques qui font des abus de pouvoir, y compris n'importe qui, parce qu'on comprend profondément que ce sont simplement des enfants qui ont peur. Le petit enfant, on lui a appris à se situer par rapport à l'opinion des autres, à essayer d'être aimé, essayer de se sécuriser en acquérant des connaissances, en essayant d'être premier à l'école, de faire plaisir au maître, d'être un bon citoyen, et toujours se situer par rapport à l'extérieur. Et ça, c'est le monde de l'ego. Et on a choisi de venir dans ce monde pour justement transcender ce monde. Et on ne transcende rien si on ne l'accueille pas totalement. Ça ne veut rien dire. Refuser ça, ou nier ça, ou juger ça, ce n'est pas l'accueillir. Donc il est fondamental, si nous voulons vraiment faire ce que nous sommes venus faire, c'est-à-dire être la lumière du monde, eh bien, ce que nous avons à faire, c'est vraiment aimer, tout embrasser. Tout embrasser. Et quand on embrasse tout, quand on embrasse tout, et là je suis en train d'embrasser, embrasser, eh bien je suis ce qui embrasse. Donc je suis toujours plus grand que ce qui est embrassé. Et peu à peu, quand j'embrasse tout à l'infini, effectivement, je deviens Dieu, je deviens ce qui est, qui embrasse tout et qui est infini. C'est une façon de parler, bien sûr. Mais il y a quelque chose de très simple, et c'est pour ça que c'est la seule attitude qui ait un sens, c'est cet accueil, cet amour. Et j'ai senti, avant de venir à ce groupe, comme une voix qui me disait, ce groupe ce soir va être particulièrement centré sur l'amour, c'est-à-dire sur l'accueil.
Moi, j'ai envie d'enchaîner sur le marketing téléphonique, parce que je trouve aussi que j'ai été, je suis encore un petit peu assez réactif à ça. Et donc, comme toi, Sylvain, je reçois des appels de temps en temps, et comme je vois que mon ego m'envoie des messages du genre il t'a pas demandé ton avis pour t'appeler, il t'a pas demandé si tu es d'accord ou pas, il est en train de faire intrusion dans ta vie privée, envoie-le balader, dis-lui qu'il te dérange, c'est pas parce qu'il s'appelle opérateur téléphonique qu'il a ton numéro, qu'il a le droit de te... Voilà, tous ces messages de mon ego, je les écoute, et quand j'ai... dans un premier temps, envoyer balader cette personne, je me dis, Saint-Esprit, aide-moi à voir cette situation différemment. Et c'est merveilleux, merci à tous les opérateurs de marketing, hein, parce qu'à chaque fois, c'est une petite cutie de rappel. Hein, et j'espère qu'il y en aura d'autres, parce que... Alors, quand je dis, je veux essayer de voir cette situation différemment, je me dis, cet homme ou cette femme, c'est comme ça qu'il ou elle gagne sa vie, d'accord ? Ça ne doit pas être facile comme travail. Je me mets déjà dans sa peau. Ça ne doit pas être facile de se faire raccrocher au nez ou de se faire insulter par certaines personnes ou d'avoir des comportements agressifs au bout du fil. Voilà. Donc, déjà, pour avoir choisi un métier comme ça, il faut être assez courageux, parce que ceux qui ne sont pas assez courageux choisissent les métiers plus faciles. Donc, je peux déjà avoir un peu de compassion pour cet homme ou cette femme qui fait un métier, qui gagne sa vie de manière un métier qui invoque autant le conflit, un métier qui suscite autant de réactivité et qui peut plonger dans l'insécurité, qui peut me plonger dans l'insécurité. Donc, j'essaye maintenant de répondre différemment, parce que je me dis, c'est quoi, que ferait l'amour à ma place? C'est merveilleux, parce que c'est à chaque fois une situation qui peut se répéter et ma vision peut changer. Et je peux voir que je peux installer autre chose au fur et à mesure. Je peux dire que ça ne m'intéresse pas sans agresser l'autre. Je veux dire que ce n'est pas pour moi, en même temps je peux remercier cette personne pour son courage et lui souhaiter de trouver un métier peut-être plus facile aussi, ou de réussir dans ce métier, ou d'arriver à faire ce métier-là. Voilà, je peux féliciter déjà cette personne pour le courage d'avoir choisi un métier pareil. Et ce que j'essaye de faire maintenant, je sens que j'ai le cœur qui bat, mais en même temps, je dis tranquillement, ça ne m'intéresse pas, et je vous souhaite une bonne continuation. Et la personne continue à parler, parce que bien sûr, c'est ce qu'elle a appris à faire, de jamais arrêter de parler. Et moi, je raccroche, mais je raccroche. Je n'ai pas le sentiment de lui raccrocher au nez. J'ai le sentiment d'avoir dit ce que j'avais à dire, avec le plus d'amour possible. Il n'y a pas autre chose à, pour moi, il n'y a pas autre chose à dire, il n'y a pas à entrer dans les détails. Voilà. Bah, merci, cher frère, merci, chère sœur. Continue ta route avec quelqu'un d'autre, si tu veux. Mais avec moi, ça, voilà, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc, parfois, ces phrases-là sont dites avec un petit peu de résidu d'ego, je dirais, de « j'ai quand même envie d'arrêter cette conversation, vite. » Et parfois, c'est dit avec un peu plus de paix. Mais à chaque fois que j'ai raccroché, je regarde comment j'ai réagi. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça te met dans cet état-là? Pourquoi tu ne peux pas rester tranquille avec? Vraiment tranquille, ou plus tranquille? Et donc, je sais que je recevrai d'autres appels, et merci à l'esprit de m'en envoyer pour avoir des leçons supplémentaires de neutralité. Cet homme ou cette femme m'appelle, eh bien il m'appelle, eh bien oui. Mais pourquoi ça doit me faire rentrer dans des états pas possibles?
Parce qu'il lâche pas.
Parce que je me sens blessé.
Je suis comme vous, c'est vraiment un très très bon exemple, parce que j'en ai eu aujourd'hui même. et c'est vraiment quelque chose, et à chaque fois je me dis, je vais essayer de lui parler gentiment à cette personne. Et en fait, quand je veux être gentil, cette personne continue. Et évidemment, cette personne, elle vous appelle tout le temps, quand vous êtes pressé, quand vous êtes là en train de vous détendre et vous n'avez surtout pas envie, si vous êtes chez vous et qu'elle vous trouve, c'est que vous avez vraiment envie d'être tranquille. Donc, moi, c'est quelque chose que je déteste aussi, qu'on vienne essayer de me vendre quelque chose. Alors, j'essaie toujours d'être très courtois parce que c'est quelque chose qui est très, très difficile à faire. Mais finalement, même en essayant d'être courtois, eh bien, ils n'écoutent pas ce que vous dites. C'est pour ça que cette situation, elle est géniale, parce que c'est un gros travail. La personne qui vous parle, qui n'écoute pas vos réponses, sauf si ça cadre dans son questionnement, dans son questionnaire, et puis vous lui dites un truc, mais elle ne veut absolument pas entendre ce que vous dites, parce que
il faut absolument qu'elle essaye de vous garder le plus longtemps possible et de vous vendre quelque chose. Et ça, c'est un truc insupportable où chacun essaye d'aller dans son sens, tire la corde vers soi. Et quand chaque personne va aller dans deux directions différentes, ça ne marche pas, quoi. Donc pour moi, j'essaye maintenant de... Je m'étais fait la réflexion et j'essaye d'être agréable et aussi de finir en disant « C'est vrai, si c'est difficile ce que vous faites, je vous souhaite bon courage. » Mais en même temps, je le dis, mais j'abrège, quoi. Je coupe. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à... Je suis un peu comme vous, à gérer. Parce que je m'emballe assez vite. Chaque fois, je me dis, la prochaine fois, je vais essayer d'être plus sympa. Et des fois, ça se passe très bien. Et des fois, ça se passe pas toujours très bien. C'est assez amusant parce que cette personne n'est pas là. Et comment une personne qui n'est pas là arrive à nous mettre dans un état de contrariété en une minute.
Alors, je peux pas détester quelqu'un ou quelque chose ou une situation sans être dans un état de séparation. Donc, il ne s'agit pas de cette personne, il ne s'agit pas de cet événement, il s'agit de mon sentiment d'être séparé. Et c'est quoi être séparé? C'est je suis blessé parce que cette personne semble me faire. Je suis blessé, je suis contrarié, c'est pareil. Je juge, c'est pareil. Si je suis en paix, je ne peux pas juger. Si je suis en paix, j'accueille tout. Mais si je n'accueille pas tout, alors je ne suis pas en paix. Et ce n'est pas important qui est au bout du fil. Et ce n'est pas important qui me contrarie ou quoi me contrarie. Ce qui est important, c'est ce coup de fil, en fait, c'est « Allô, ici le Saint-Esprit, c'est un test de neutralité. Est-ce que tu vas réagir ou est-ce que tu vas rester neutre ?» Donc c'est moi qui me parle à moi qui m'envoie des tests. Et donc, est-ce que j'ai envie de lui couper la parole pour dire ce que j'ai à dire et de raccrocher au plus vite, pour m'en débarrasser parce que ça m'encombre? Ou est-ce que quoi qu'il dise ou quoi qu'il fasse, j'accueille? Il est commercial, d'accord. Il essaye de me vendre quelque chose, d'accord. Je ne suis pas intéressé, d'accord. Je lui dis ok. Il n'écoute pas, d'accord. Dieu ne connaît qu'un seul mot, c'est d'accord. Et j'ai envie de raccrocher, d'accord, raccroche. Mais je ne raccroche pas au nez, hein, ça veut dire que ce n'est pas un raccrochage qui est agressif, comme si je claquais une porte. Je ferme la porte. Parce que j'ai vu une situation, je ne me sens pas intéressé, c'est neutre, hein, je ne me sens pas intéressé, pas guidé, pas, je n'ai pas l'impulsion de continuer dans cette direction. Voilà, bah, dans ma vie, j'ai des bifurcations, je vais à gauche, je vais à droite, je choisis ce métier, j'écoute cet homme, je ne l'écoute pas, je peux le faire d'une manière neutre. Et puis, lorsque j'ai choisi de pas forcément l'écouter, je lui dis gentiment que je ne suis pas intéressé, que je souhaite une bonne continuation. Quand j'arrive à faire ça, c'est merveilleux, hein, et quand je vois que mon ego résiste à faire ça, c'est aussi merveilleux, parce que je me vois à l'œuvre, je me vois séparé, je me vois dans ce qui a besoin de réagir, et ce qui a besoin de réagir, c'est ce qui réclame ma conscience, ma lumière, ma paix. Des zones de moi qui ne sont pas guéries. Donc ça m'indique, hein, voilà, avec une grosse flèche, un projecteur. Tu vois, la vie là, cet endroit-là, tu as besoin de t'en occuper. Donc, chaque fois que je déteste, c'est qu'il y a une part de moi que je déteste et qui n'est pas pacifiée. Et le jour où je ne pourrai plus détester personne, ben je serai divin, puisque je dirai ok à tout. Et je suis sur cette route, hein, d'être de moins en moins dans l'opposition à ce qui se passe, à la réalité de l'instant, à l'instant présent.
Oui, moi aussi je déteste ce type de situation, mais c'est la situation que je déteste, pas la personne. C'est le fait d'être dérangé qui me plaît pas. Et en fait, j'écoute rapidement ce que la personne veut, enfin, ce qu'il veut vendre, quoi. Je commence, non, je suis pas intéressé, non, vraiment pas. Si l'autre continue, commence à vouloir parler, je m'en sors avec une pirouette, je suis désolé, je suis déjà en retard, j'ai vraiment pas de temps à vous consacrer, je suis désolé. Donc, puis bon, au revoir, puis voilà, au revoir madame, au revoir monsieur, puis voilà. Je m'en sors avec une pirouette comme ça, j'ai pas de temps à vous consacrer, j'ai pas intéressé. Hein.
Il y a une leçon.
En disant ça, je m'y avais un jeu en souriant, quoi. En le disant en souriant, ça passe, quoi. Et donc les gens n'insistent pas, tac, je raccroche. Mais je raccroche pas jamais. Je raccroche pas brutalement. Mais c'est vrai que je déteste la situation. Mais pas la personne. Donc j'ai toujours. Je fais un petit coup de ping-pong. Où il faut effectivement que j'évite de. D'aller sur la personne, enfin, tomber dans l'agression. Il y a quand même un clink-clank, c'est pas instantané. Hein. Ça, je sens que ça circule dans la tête. Avant de me mettre dans le bon état.
Là, en tout, il y a quelque chose d'important, c'est une stratégie qui a son sens, une façon de parler, une façon de réagir. Dans telle circonstance, voilà, moi je fais ça, et puis ça a des résultats, et puis l'autre personne fait autre chose. Certains enseignants, quelquefois, s'amusent à dire, mais c'est un jeu, que dans le cours en miracle, il y a une leçon qui résume tout le cours. C'est une façon, effectivement, de parler, on peut dire que toutes les leçons résument tout le cours. C'est la leçon qui, pour ceux qui commencent le 1er janvier, va arriver dans 3 jours, le 3 février. Je viens de regarder le numéro, c'est la leçon 34. Et c'est je pourrais choisir la paix au lieu de cela. Dans n'importe quelle situation, je pourrais choisir la paix au lieu de cela. Et effectivement, par exemple, un appel téléphonique pour me vendre quelque chose, je suis agacé, je peux choisir la paix au lieu de cela. Je m'aperçois que tel événement politique me choque, me hérisse, je viens d'apprendre tout à l'heure que apparemment, les Chinois auraient banni le mot Égypte de leurs nouvelles. On n'a pas le droit de les censurer, etc. Donc, si je suis agacé, je peux choisir la paix au lieu de cela. Et ça, c'est total, sans aucune exception. Donc, dans n'importe quelle circonstance, par exemple, je me sens jaloux, ou j'ai peur, je me sens prisonnier, j'ai des échéances que je sens que je ne vais pas pouvoir honorer. Dans ma perception, je peux choisir la paix au lieu de cela. Alors évidemment, mon ego, lui, n'a pas envie, parce que l'ego a vraiment le sentiment d'être victime. Bien voir que l'ego, qui est la croyance à la séparation, donc cette sensation que la séparation est réelle, ça implique automatiquement d'être victime, et donc d'être dépendant d'un monde extérieur que je ne contrôle pas. Donc c'est terrifiant. Donc j'accueille ça. Donc je dis, ah, bon, effectivement, j'ai choisi une expérience humaine avec des opposés très forts, donc j'ai choisi d'aller réépouser un ego, c'est-à-dire des croyances qui sont peut-être fausses, mais qui me paraissent réelles, ainsi que tous mes frères et sœurs. Bon, et donc j'ai des situations qui sont des défis, et comme disait Abby tout à l'heure, mais chaque situation est un cadeau, parce que ça me titille, et du coup je ne suis pas bien, je pourrais choisir la paix au lieu de cela. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que la paix. Parce que ce jeu-là est inventé, et parce qu'il n'y a que Dieu, Dieu est tout, tout ce qui est. Et donc, le conflit, le manque, la séparation, tout ça n'existe pas. Il est impossible de ne pas être l'amour. Donc, en face de moi, il n'y a que l'amour. Et donc, je vais jouer le jeu de l'amour sans cesse. Et donc, c'est pour ça que je pourrais choisir la paix au lieu de cela. Et la paix, c'est la paix. Donc, c'est le non-conflit. c'est le problème n'existe pas, le manque n'existe pas, alors on va dire oui, mais tu as choisi une expérience humaine avec des lois physiques, et en particulier, il y a l'échéance de la mort physique, il y a un corps qui semble se dégrader, donc il faut le protéger, il faut faire attention, il ne faut pas fumer, il faut manger bio, il faut ceci, il faut cela, il faut des stratégies. Je pourrais choisir la paix au lieu de cela. Et donc, je ne suis pas en train de parler d'une petite attitude. C'est une attitude de confiance absolue, infinie, dans l'instant présent. Où je remets tout à l'esprit en disant, l'esprit gère tout l'ensemble de la pièce de théâtre et je choisis la paix. Et là, je recite cette fameuse phrase de la leçon 135. La leçon 135, c'est si je me défends, je suis attaqué. Cette fameuse phrase qui est recitée sans cesse et qui est vraiment extrêmement utile à pratiquer d'instant en instant, c'est « Que ne pourrais-tu accepter si seulement tu savais que tout événement, passé, présent et futur, est planifié avec douceur par l'un, U majuscule, N, par l'un, dont le seul but est ton bien, évidemment le bien de tous tes frères et sœurs aussi. Que ne pourrais-tu accepter si seulement tu savais que tout événement, passé, présent et futur, est planifié avec douceur, on va dire avec amour, par l'un dont le seul but est ton bien. Donc tout ce qui se passe, c'est pour le bien de tous. Donc tous les événements politiques, sociaux, religieux, notre conditionnement apparent, notre petit monde, familial, social, là où nous sommes, dans notre pays, dans notre village, tout ça, c'est planifié par l'esprit. Bien sûr, c'est pas ce qu'on nous apprend, puisqu'on nous apprend qu'à nous battre, à essayer de construire quelque chose. Mais en fait, on construit rien du tout. Il n'y a qu'un acteur, c'est l'esprit. C'est ce que disait Jésus il y a 2000 ans, en disant, de moi-même, je ne fais rien, c'est le Père en moi qui agit, qui fait les œuvres. C'est comme ça que c'est écrit dans les évangiles canoniques. Et là, effectivement, c'est une phrase tout à fait authentique. Et absolument qui pratiquait sans cesse. Que ne pourrais-tu accepter si seulement tu savais que tout événement passé, présent et futur est planifié avec amour et douceur par l'un dont le seul but est ton bien. Donc, ce qui se passe dans ce monde, là aujourd'hui, nous sommes le 31 janvier 2011, eh bien, j'accepte totalement et je choisis la paix au lieu de toute perturbation mentale, etc. Donc j'accueille mes perturbations, j'accueille mes frustrations, j'accueille aussi celles des autres, mais je choisis la paix. Je choisis la paix, je choisis ce qui est vrai. Et je demande à l'esprit de me le montrer. Et effectivement, à ce moment-là, comme disait Avi, comme on a dit les uns les autres, toutes mes situations sont des défis, des occasions de pratiquer. Parce que ce dont nous parlons ici, c'est bien, mais évidemment, ça doit être pratiqué. Et sinon, ça reste des concepts. Et la pratique, c'est à chaque instant. Bien sûr, elle se fait ici, là, autour de cette table. Elle se fait là où ceux qui écoutent cet enregistrement, eh bien, ils sont chez eux avec leur ordinateur, ils écoutent. Eh bien, c'est là que ça se passe. Et puis, une heure plus tard, c'est encore là que ça se passe. Et le lendemain matin, quand on se réveille, c'est encore là que ça se passe. Et donc, je me réveille le matin, et puis je commence à avoir des pensées qui tournent, avec des choses à faire, des échéances que je ne peux pas honorer, ceci, cela, des difficultés, des frustrations, tout, des sentiments divers. Et je peux dire, je peux choisir la paix au lieu de cela. D'ailleurs, dans le cours en miracle, dans le manuel pour les enseignants de Dieu, Jésus nous dit, comment est-ce qu'un enseignant de Dieu passe sa journée? Eh bien, il dit, en fait, au réveil le matin, eh bien, il prend soin de passer un peu de temps avec Dieu. Et c'est ça, c'est dire, bon, il n'y a que Dieu. Alors, effectivement, je suis assailli de plein de questions, de choses à résoudre, j'ai mon job, j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai des tas de choses à faire, ou rien à faire, enfin bref. Ou au contraire, j'aimerais bien avoir un job, il faut que je cherche du travail, enfin n'importe quoi. Et ça, nous connaissons bien tout ça, puisque c'est notre lot à tous. Mais je mets Dieu en premier, mais Dieu, c'est-à-dire ce qui est la paix. Donc, ok, je choisis cette journée, c'est une journée de paix, je veux choisir la paix au lieu de cela. Et ça, c'est effectivement, c'est pour ça que c'est central. Et ça suppose évidemment l'acceptation du fait que c'est l'esprit qui gère complètement la pièce de théâtre. Et ce n'est pas les petits personnages que nous sommes. Mais ça, l'ego n'aime pas l'entendre. Parce que l'ego, c'est une croyance qu'il faut se battre, qu'il faut absolument faire des stratégies. Sinon, je vais manquer. Sinon, je ne vais pas être aimé. Sinon, je vais tout rater. Sinon, je vais mourir, finalement. Alors qu'en fait, mais non, je suis fils de Dieu. Et là, j'ai choisi une expérience humaine. C'est un défi. Et je peux choisir la paix au lieu de toutes ces pensées d'attaque, de défense, de stratégie. Et redevenir comme un enfant confiant. Donc, je peux choisir la paix au lieu de cela.
Et quand j'ai pas choisi la paix, ce que nous connaissons pour la plupart, hein, puisque c'est un chemin qui mène vers la paix, si je peux voir que j'ai pas choisi la paix, alors c'est une vision dans laquelle il y a plus de paix. Je raccroche le téléphone, après ce coup de fil, je dis, oh là là, t'es agité là, t'as vu comme t'es agité. C'est important, hein, parce que ce qui témoigne, la partie qui dit tu es, cette partie-là, observe une partie de moi agitée, cette partie-là est dans la paix, puisqu'elle observe. Donc, quand j'ai pas choisi la paix, une manière de choisir la paix, c'est d'observer que je n'ai pas choisi. C'est à ça que ça sert. C'est ça que Gary Renard appelle des JAFO, hein, Just Another Forgiveness Opportunity, juste une autre occasion de pardonner. Chaque coup de fil comme ça, c'est un JAFO. Donc, je n'ai pas choisi la paix. Je regarde, et quand je regarde, je dis, j'ai choisi l'agitation au lieu de la paix. Quand je regarde l'agitation, alors je donne moins de pouvoir à l'agitation parce que je ne suis pas noyé dedans. Je suis en train de regarder le personnage, le pantin, l'ego, s'agiter. Qui regarde le personnage à part l'être, l'esprit pur? L'esprit pur est en paix. Et quand je m'identifie à ça en regardant, eh bien, c'est évidemment, je m'identifie à la paix. Et donc, c'est impératif. C'est un JAFO qui a été manqué si je ne peux pas voir que je suis parti dans l'agitation. C'est une occasion de pardonner qui a été gaspillée. Ce n'est pas important, puisqu'il n'y a pas de temps, il y en aura des milliers d'autres. Mais plus je les attrape au moment où elles se passent, Et plus elles servent leur but. Et leur but, c'est de me ramener à la conscience que je suis en paix. La partie qui observe l'agitation, c'est ça, c'est la paix. Donc, je reconnais que je suis en paix en observant qu'il y a une partie de moi apparemment séparée qui s'agite. Hein, une pensée qui s'agite, on peut dire une croyance qui s'agite. Regardant la croyance, depuis l'état de paix, je peux la laisser pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une croyance, et ne pas croire que c'est vraiment une situation qui s'est vraiment passée. C'est une opportunité de pardonner qui s'est passée, c'est pas un personnage, c'est pas réel. Hein. Quand je peux rire de la situation ou simplement voir qu'il ne s'est rien passé en réalité, il s'est passé qu'une opportunité de voir la réalité au lieu de voir l'illusion. Quand je peux rire de ça, je peux amener l'ego à avoir beaucoup moins d'emprise, parce que l'ego déteste être pris la main dans le sac. Et quand je dis déteste, l'ego, ça en fait pas une entité, l'ego c'est juste une croyance. L'ego c'est la croyance que je ne suis pas un avec Dieu, hein, c'est ça. C'est une croyance erronée, donc c'est pas une croyance qui a un fondement quelconque. C'est juste, j'ai eu envie de penser ça à un moment, une petite idée folle, Et puis j'ai pensé ça, et quand mes pensées sont honorées, j'ai aussi fabriqué des choses bizarres. Mais je les ai fabriquées dans ma pensée, dans mon esprit. Mais à aucun moment, ça vient remplacer la réalité. C'est simplement quelque chose auquel je crois. Donc moi, ça m'aide beaucoup de regarder que, ah bah oui, j'ai pas choisi la paix. Comment j'aurais pu choisir la paix? Qui dit ça, hein? La partie de moi qui dit ça, elle est de plus en plus dans la paix. Parce que si je suis en guerre à l'intérieur, en conflit, jamais je pourrais poser la question, comment je pourrais voir la paix dans cette situation? Comment je pourrais choisir l'amour dans cette situation? Et donc, j'essaie de ne pas laisser passer dans ma vie les occasions où je n'ai pas choisi l'amour. Parce qu'elle m'entraîne à rechoisir.
Mais ça ne veut pas dire qu'on accepte tout, parce que souvent c'est déjà faux, ça nous met dans un état. C'est pas simplement de l'agressivité, mais c'est quelque chose qui ne nous plaît pas forcément. Donc c'est pour ça qu'on est dans de la réactivité. C'est pas forcément une attaque, c'est pas forcément quelque chose de personnel. C'est toujours qu'on n'a pas envie de faire. Donc.
La réalité. Justement, le désagrément vient du refus de la réalité. D'accepter le fait. Tu refuses le fait. En fait, accueillir le fait, c'est refuser le fait, c'est. Je suis dérangé par le coup de téléphone. Je refuse le coup de téléphone. Je refuse le fait. Mais c'est ça le mécanisme de base. Lutte contre la réalité. En
fait, donc si on accueille, on accueille.
Si j'achète le coup de téléphone, ça ne veut pas dire que je vais acheter ce lot de paiement. Ça veut dire que quelqu'un m'appelle. Voilà. C'est tout. Là, en accueillant, c'est quelqu'un m'appelle. Je lutte pas.
Je peux aussi accueillir le dérangement. Je peux accueillir la colère. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas me mettre en colère. Ça veut pas dire que je ne dois pas être dérangé. Ça veut dire que, ah ben oui, là, j'ai basculé dans le dérangement. J'ai basculé dans la contrariété. Je peux accueillir ça, même si je ne peux pas accueillir la situation. Parce que, comme dit Alain très justement, la situation, elle est complètement neutre. C'est, est-ce que j'ai un regard d'amour sur la situation et dans ce cas, je vais embrasser tout ce qu'elle m'offre. Ou soit j'ai un regard de dérangement sur la situation. Et là, je provoque un conflit. Et c'est ce regard qui est difficile, c'est pas la situation. Et le regard, c'est moi qui décide. Je peux regarder avec la vision du Saint-Esprit, de la partie en paix. Je peux regarder avec la vision de l'ego, qui me transforme en victime et l'autre en bourreau. Donc, ok, je suis dérangé. J'accepte. Hein? Dieu dit ok à tout. Donc, je suis ok avec la pensée du fait que je crois être dérangé. Je crois être dérangé. C'est une croyance, puisque il n'y a pas de temps où je ne serai pas dans l'amour, hein, éternellement. Et rien de ce qui a été créé ne peut être décréé, et sera à jamais. Donc tout le temps, et de tout temps, et toujours et à jamais, j'ai été, je serai dans l'amour. Donc c'est une croyance que je me suis échappé dans le dérangement. Donc ok pour cette expérience de dérangement. Et la partie qui dit ok, elle est dans l'amour, puisqu'elle dit ok. Donc j'accueille tout, y compris mes agitations. Et accueillir mes agitations, c'est mon chemin pour revenir à l'amour. Parce que je me permets d'avoir fait l'expérience de l'agitation. En vérité, je suis venu pour ça. Je suis venu pour expérimenter qu'est-ce que seraient les choses si je n'étais pas pur amour. Ben voilà, ce coup de fil. Je ne suis pas pur amour quand je réponds agressivement à ce coup de fil. J'ai souhaité ça. Et comme disait Sylvain, hein, que ne pourriez-vous accepter si vous savez que chaque événement, passé, présent ou futur, est soigneusement planifié par l'un pour le plus grand bien, pour votre plus grand bien. Donc, ce coup de fil aussi, je l'ai fabriqué pour l'amour, pour trouver, revenir à la sensation d'être dans l'amour. Et dans un premier temps, donc je l'ai planifié moi-même. Donc je ne me condamne pas d'avoir planifié, je dis ok au dérangement, parce que c'est ce que j'ai voulu, être dérangé. Puisque ce que j'ai voulu, c'est expérimenter les choses différemment de ce qu'elles sont. C'est en plein dedans, je suis en plein dedans là. J'ai expérimenté l'agacement au lieu de l'amour. Donc j'ai atteint mon but. Ok, ok à l'agacement. Et quand je dis ok à l'agacement, je le dis depuis la paix forcément, puisque j'accueille.
Donc, ça désamorce le conflit.
Oui. Moi, je dirais une chose, quoi que je réagisse, c'est oui à tout. Oui à ce que je suis maintenant. Oui à ma colère, oui à mes larmes, oui à mon chagrin. Et quand je dis oui, j'étends la paix. J'étends la paix aux larmes, j'étends la paix à l'agitation, j'étends la paix au chagrin. Donc, j'imbibe de paix tout ça, et donc je pacifie tout ça. Oui, à chaque facette du diamant que je suis.
Et en fait, dire oui aussi ne veut pas dire cautionner. On cautionne rien. Parce qu'on nous a appris ça.
L'erreur que je fais.
Oui, on a appris que dès qu'on dit oui, on dit oui parce que c'est bien. Et non, ça n'a pas de valeur, c'est ni bien ni mal. C'est ça le pardon. On dit souvent, par exemple, Gary Renner, dans son livre avec Arten et Purchat, souvent, on se pose la question, qu'est-ce que ferait Jésus, là, dans telle situation? Et Arten ou Purchat dit, mais il pardonne, il va pardonner. Alors, ça veut dire qu'il cautionne, on pardonne, parce que la paix vient par le pardon, c'est-à-dire, j'accueille. J'accueille, c'est tout, j'accueille. Et vraiment, il n'y a pas de valeur, on accueille cette pièce de théâtre fantastique, où finalement, on crée tout. Donc, si je suis dérangé par tel frère, telle sœur qui a tel comportement, c'est dans mon esprit que ça se passe. Et il y a une histoire là que raconte Gary au début de son deuxième livre, si je ne me trompe pas, une histoire amusante, tiens, au 19e siècle, dans un ranch là au sud des États-Unis, c'est moi qui mets un cadre un peu qui n'est pas trop dans le livre, mais ça ne fait rien, eh bien il y a donc un propriétaire qui est assez dur. Et alors un jour, il y a un pauvre gars qui arrive et qui prend un poulet parce que pour nourrir sa famille, ils n'ont pas grand-chose à manger. Et il est surpris par les employés de ce maître du ranch. Il l'attrape et puis il l'amène au maître. Il dit, qu'est-ce qu'on en fait? Le maître dit, pendez-le, ça lui servira de leçon. Et puis ensuite, il y a un gars qui se trompe de chemin, il passe sur les terres avec ses bêtes, sur les terres de ce propriétaire, et donc les employés l'attrapent, le conduisent au maître, et disent, qu'est-ce qu'on en fait, il a passé sur tes terres. Pendez-le, ça lui servira de leçon. Et c'est comme ça, pas mal de fois. Hein. Et puis finalement, ce propriétaire quitte son corps, il meurt, et puis il arrive aux portes du paradis, il n'est pas très fier, il fait un peu le tour là, et puis il voit Saint-Pierre, il essaie de passer tranquillement, et puis il y a Jésus qui est là, et puis Saint-Pierre le voit, il dit, mais tiens Jésus, qu'est-ce qu'on fait de ce gars-là là? Et Jésus lui dit, pardonne-lui, ça lui servira de leçon. Et c'est exactement ça. Hein, le pardon, c'est vraiment, il n'y a que l'amour qui existe, qui soit réel. Le reste, c'est une illusion. Et donc, tous mes frères ne sont qu'amour. Et donc, cet homme-là n'est qu'amour. Il a joué un jeu parfait. Et ce jeu, c'est moi qui le crée, qui l'invente. Parce que, avec ma séparation. Et quand je me réveille à qui je suis, au fait qu'il n'y a pas de séparation, je ne vois que la lumière et l'amour partout. Et c'est en ce sens que l'univers disparaît. Et c'est ça que veut dire le titre du livre de Gary, et l'univers disparaîtra. Il ne disparaît pas en tant que les formes disparaissent, mais dans mon esprit, il a disparu en tant que quelque chose de séparé. Et quand on nous dit, par exemple dans le cours, le ciel et la terre disparaîtront, ça veut dire qu'ils cesseront d'exister en tant qu'état séparé. Donc je vis mon expérience terrestre, en étant conscient de qui nous sommes. Et donc je suis dans un amour et un accueil total. Je n'ai plus de jugement pour personne, je suis en état de pardon permanent, mais je ne cautionne rien. puisque rien n'a de valeur. Donc il n'y a rien à cautionner. La pièce est totalement inventée. C'est pour ça que Jésus souvent dit et insiste bien en disant « J'insiste bien, il n'y a pas de monde, c'est pas réel. » Ce qui n'est pas réel ne peut pas avoir de valeur, c'est neutre, c'est un rêve. C'est pour ça qu'il nous dit, on nous dit dans la Bible que Adam s'est endormi, mais il n'est dit nulle part qu'il s'est réveillé. Et donc tout le monde dort, on s'imagine être séparé, mais c'est impossible. Donc puisque la séparation est impossible, rien, personne ne peut faire du mal à personne. C'est une leçon énorme, énorme. C'est parce que tout ça c'est inventé, imaginé. Alors, évidemment, et c'est dont nous parlons ici, alors on vient dire, oui, mais en attendant, moi, c'est bien gentil, mais ça, c'est pas mes croyances. Donc, qu'est-ce que je fais avec mon quotidien? Eh bien, tu fais ce que tu sens. Et temporairement, tu vas t'apercevoir que tu es tout le temps piégé par l'ego. Mais comme vient de dire Avi, quand je regarde ça, on dit, ah oui, tiens, là, je suis jaloux. Ah oui, là, je crois à la séparation. Ah oui, là, j'ai peur. Ah oui, là, j'ai l'impression que je vais manquer. Le fait de l'observer, c'est déjà ça disparaît. C'est pour ça que beaucoup d'enseignants nous disent « observez, observez, soyez l'observateur ». Parce que ce qui observe, c'est qui vous êtes. Et ce qui observe n'est pas ce qui est observé. Donc vraiment, c'est un appel à jouer le jeu de l'amour, jouer le jeu de l'accueil. Parce que l'observation, c'est l'accueil. On peut dire que l'observation, c'est l'amour.
Moi, je ne le prenais pas dans ce sens-là, parce que des fois, je m'aperçois à rebours. Je dis, tiens, voilà, tu t'es encore emporté, franchement, ça sert à rien, ça sert à rien que tu travailles tes leçons, ça ne marche pas. Je me culpabilise.
Bien sûr.
Alors qu'en fait, je m'aperçois, c'est bien, je m'en suis aperçu. Donc ça me fait du bien ce que vous dites, parce qu'au lieu maintenant de me réprimander tout en décalé, C'est bien finalement de m'apercevoir que je me suis emporté. Et bien finalement, je suis déjà, ça me fait déjà plaisir. Parce que je vais beaucoup m'emporter encore.
Si je m'aperçois que je me suis emporté.
Non mais je me jugeais mal parce que je m'aperçois. Donc je dis c'est bien, je m'aperçois. Donc je peux commencer à travailler puisque j'ai reconnu l'erreur. Tant qu'on ne reconnaît pas, on n'avance pas. Et finalement, ça me faisait pas le bon effet. En fait, je l'interprétais même en le reconnaissant d'une manière qui m'apportait aucun bénéfice, puisque je me rongeais avec. Finalement, tu travailles, mais tu n'avances pas beaucoup. Hein. Je regarde là, tu n'as encore pas réussi ce truc-là, là, tu es encore emporté, c'était évident. Voilà. Et je reste sur une note négative en disant. C'est dur, c'est dommage. Quand est-ce que ça ira mieux? Voilà. Donc j'essaie de le voir différemment. Et ça sera un pas de plus.
C'est exactement ça. C'est de voir la situation différemment. Parce qu'il y a une manière de s'enfoncer encore plus dans la séparation que de juger, c'est de juger le jugement. J'ai jugé, c'est pas bien. Hein, c'est un jugement au carré, donc il y a un double pardon à faire. Me pardonner d'avoir jugé et pardonner ce que, la personne ou la situation que j'ai jugée. Donc, accueillir, c'est, je vois que j'ai besoin de juger. Je vois que je suis entraîné à juger. Je vois que je ne peux pas rester neutre hein, dans une situation. Et je vois que je n'accepte pas mon propre jugement. Donc, c'est pas s'apercevoir, c'est être témoin. Hein. Être témoin, c'est regarder depuis la paix.
Justement, j'ai tiré la leçon, je n'utiliserai pas les yeux du corps aujourd'hui. C'est justement lâcher les yeux du corps pour reculer et puis se dire bon, en choisissant la paix, je n'utilise pas les yeux du corps aujourd'hui. Ça va aussi quand on parle de la création, il y a aussi de ça dedans. On ne peut pas avoir la création avec les yeux du corps.
Oui.
Donc, on est obligé de partir de l'esprit. voir que tout est un. Et là non plus, les yeux du corps. Et...
Si je veux de la paix, je suis la direction pour trouver la paix, c'est de m'adresser à la partie de moi qui m'accompagne tout le temps, qui est toujours en paix, qui est mon pur esprit, ce que le cours appelle le Saint-Esprit. Donc, j'ai la vision paisible du Saint-Esprit de cette situation qui me dit « il ne s'est rien passé, sauf dans ton imaginaire, tu as fabriqué ça juste pour te donner l'occasion de pardonner ». Et j'ai la vision des yeux du corps qui me disent « il m'a fait du mal, il n'aurait pas dû, elle n'aurait pas dû m'appeler pendant que je suis en train de manger » ou « pourquoi il n'est pas à l'heure là hein ?» Tout ça, c'est la vision de l'ego. Mais la seule manière de revenir en paix, c'est de m'adresser à la partie de moi qui m'accompagne tout le temps et qui est toujours en paix. Que ferait l'amour à ma place? Ou alors, le témoin, c'est pareil, hein, le témoin, c'est l'esprit tranquille. Mais j'ai besoin de faire ce pas en arrière pour observer. Si je ne fais pas un pas en arrière, eh bien je suis dedans. Et de dedans, c'est très difficile d'observer quoi que ce soit. Si tu veux voir la Vénus de Milo ou la Joconde, tu ne peux pas avoir le nez collé dessus, il faut te reculer un peu. Sinon, tu ne vois rien, tu es immergé dedans. Si tu veux voir la jalousie, fais un pas en arrière. Si tu veux voir la colère, fais un pas en arrière. Et quand tu vois que la colère est à un pas devant toi, eh bien, tu n'es pas la colère puisqu'elle est à un pas devant toi. Et là, la paix peut venir. Parce que enfin, tu mets la distance entre le supposé événement et qui tu es vraiment qui observe. Et c'est ça que j'appelle l'identification à la paix. Je peux m'identifier au pur esprit en prenant la distance avec l'agitation qui fait que je regarde l'agitation. C'est comme un enfant perdu qui pleure, qui est égaré dans la nuit, qui cherche ses parents. Et moi, le pur esprit témoin paisible, je suis le parent. Je lui tends la main. Viens, rentre à la maison. T'es perdu, mais moi je connais la route. Hein? Donc à ma jalousie, je tends la main en disant « Ok, je suis jaloux. » À ma peur, je tends la main et je ramène l'enfant à la maison. J'ai un rôle parental, hein? L'esprit pur que je suis, un rôle parental pour dire « T'as eu une idée folle, reviens dans la vision du un, de l'unité, où il n'y a pas d'idée folle. Hein? » Tu as voulu faire une expérience d'égarement, tu as voulu faire une expérience où tu es dans le noir, reviens dans la lumière. Mais qui te ramène dans la lumière? Le pur esprit que tu es.
Oui, pour justement revenir dans la paix, il faut que ton propre esprit, son propre esprit s'aperçoive qu'on est parti.
Oui.
Et ça, c'est pas automatique. C'est hors du contrôle. Et en fait, ce sont des choses que j'ai expérimentées par la pratique de la méditation, où en méditant systématiquement, l'esprit s'évade, mais systématiquement, mon propre esprit s'aperçoit que je me suis évadé. Et en fait, en pratiquant la méditation, j'ai compris que j'entraînais mon propre esprit à s'apercevoir que j'avais perdu le contrôle. Et en fait, c'est cet esprit-là que la pratique de la méditation, ce qui sert dans la vie courante, c'est-à-dire le fait d'avoir cet entraînement progressif que mon propre esprit s'aperçoive que je suis pas où il faut, ça va se produire dans la vie courante, mais c'est pas automatique. Il y a des jours ça marche, il y a des jours ça veut pas. C'est comme ça, mais c'est hors du contrôle. Et donc il n'y a pas du tout à s'en vouloir quand ça n'a pas marché. Ben, aujourd'hui, ça marche pas. Il y a des jours, ça ne marche pas. Et c'est une spirale. Et ce qui est important, c'est d'enclencher cette spirale. Et de plus en plus, l'esprit va s'apercevoir, hop, la colère s'installe, ou c'est la peur, ou c'est ci, ou c'est ça. Et progressivement, ou je viens de juger. J'ai à peine fini de juger. Ah, ça y est, je viens de juger. Avant, je jugeais déjà depuis... j'étais déjà bien... C'est déjà bien dedans. Hein. Et là maintenant, c'est « Ah, tiens, je suis sur le point de juger. » Donc, mon esprit, c'est vraiment de l'entraînement. Et ça vient tout seul.
Il y a un des deux esprits. Il y a un des deux esprits qui est l'esprit séparé, qui se croit séparé. Et il y a un autre qui est dans l'unité. On ne parle pas de la même chose.
Hein. Oui, mais c'est celui-là, celui qui est dans l'unité.
Voilà, quand tu dis mon esprit s'évade, mon esprit s'évade, c'est l'esprit qui croit qu'il peut être à part de Dieu.
Les pensées s'évadent.
Séparé. Et l'esprit qui ramène, qui observe celui-là, c'est l'esprit juste. Hein. Il n'y a que l'esprit juste, hein, puis l'autre, le reste, c'est une croyance.
En fait, c'est le but de tous les entraînements spirituels, justement, d'entraîner l'esprit, son propre esprit, à s'apercevoir qu'on a une notion de choix. À tout instant, j'ai le choix, mais il faut que quelqu'un s'aperçoive également dans le chemin. Des fois, tu es dans le couloir, boum, tu vas tout droit sur les rails. Je vois pas qu'il y a un moment, je ne vois pas les panneaux.
Moi je dirais il y a un moment où l'agitation tombe parce qu'il y a une effervescence dans la colère, il y a une effervescence dans quoi que ce soit qui est agité, et après il y a une décantation. Quand je ne suis pas entraîné, je peux attendre la décantation pour observer. Hein? Une heure après, après que j'ai claqué la porte et que je suis parti, en traitant de nom d'oiseau de cette personne, une heure après, je vais progressivement retrouver un peu plus de paix, et à travers cette paix-là, je peux observer ce qui s'est passé, je peux observer l'agitation. Étant dans le tumulte de l'agitation, et me confondant avec l'agitation, c'est évident que c'est très difficile d'observer. Ou alors, je suis très entraîné, si j'arrive à observer le tumulte pendant qu'il se passe. Mais tant que je ne suis pas très entraîné, ça ne veut pas dire que si je n'ai pas pardonné, ou si je n'ai pas vu différemment, ou si je n'ai pas observé étant témoin, c'est foutu. Ça veut juste dire que ce n'était pas possible à ce moment-là, et que ça peut être possible plus tard. Moi, je peux dire que ça peut être fait 10 ans après. Hein. 10 ans après, avec une personne décédée, ah ben oui, je vois que là, je l'ai jugé violemment. Comment j'aurais pu, à partir de la paix, choisir l'amour au lieu du jugement? Et je peux rechoisir. Je peux pacifier quelque chose de très ancien, comme ça. Comme il n'y a pas de temps, ben ça se fait immédiatement. C'est important de ne pas laisser des occasions de pardon non vues, parce que ça raccourcit mon éveil, mon retour à la maison. Quoi que ce soit qui s'est passé, qui a été dans la séparation, dans l'emportement, dans l'agacement, dans la jalousie, je peux le revoir et puis rechoisir, parce que les pensées sont pleines d'énergie. Hein. Donc quand je rechoisis, bien je peux ajuster une situation qui demandait un ajustement. Donc une heure après, 2 heures après, une semaine après, ça n'a aucune importance. L'important, c'est l'intention que j'ai de voir de manière juste cette situation. Dès que je l'ai vue de manière juste, eh ben c'est OK. Moi, j'ai un exemple, hein, j'ai déjà cité. J'ai une femme dans la cour qui m'attendait visiblement que je rentre. Elle m'a chopé au passage en me disant, cette femme-là qui vient de temps en temps là, chez toi, qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Je lui ai dit, c'est une femme qui travaille chez moi. Je lui ai dit, c'est ma femme de ménage. Et puis elle me dit, elle est déclarée. Alors là, je tombe des nues. Mais en même temps, je cède à l'agacement. Et je lui réponds, pourquoi tu fais une enquête? Voilà. Et après. Je suis rentré chez moi et j'ai vu, et une heure ou 2 heures après, ou même plusieurs jours après, je ne me rappelle pas, j'ai repassé le film parce que je me suis vu fonctionner. J'ai vu que j'ai ressenti le besoin de me défendre, donc j'avais senti que j'étais attaqué, et donc j'ai fabriqué. L'idée que j'étais victime et qu'elle était le bourreau. Et je me suis dit, qu'aurait fait l'amour à ma place? Il aurait vu que cette femme allait dans l'insécurité. il aurait vu que cette femme, ma voisine, elle était insécurisée par le fait que cette femme, qui est d'origine bulgare, donc pour elle, elle était, assimilée à une voleuse. Hein, en gros, c'était à peu près ça. Et cette femme, à travers ces questions que moi j'ai jugées agressives, elle me disait, je me sens pas en sécurité. Et quand je peux entendre, je me sens pas en sécurité, je peux ouvrir les bras. Je peux déjà ne pas me sentir victime de ça. Cette sœur-là, qui vit près de moi, elle se sent loin de l'amour, c'est ça, être dans l'insécurité. Elle se sent séparée de l'amour au point qu'elle a des comportements comme ça. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé sa lumière, alors que je n'avais pas vu sa lumière. Quand je me suis senti victime, je n'ai pas vu sa lumière. J'ai vu plutôt le bourreau. Quelques moments plus tard, j'ai repassé le film et là, j'ai fait mon petit rituel de pardon. Hein, j'ai dit intérieurement, tu es fille de Dieu, infinie, puissante, éternelle, dans la lumière à jamais, et nous sommes tous les deux pardonnés. Je peux voir que dans la pièce de théâtre, tu m'as bien eu, quoi. Tu m'as bien eu parce que j'ai vraiment cru. J'ai vraiment cru que ce que tu me proposais, c'est passé. Et là, ça s'est détendu. Donc, c'est pas obligatoire de pardonner. Parfois, c'est très très difficile. Parfois, c'est impossible. Mais si c'est impossible, ok, j'accepte. J'accueille que c'est impossible. Et quand j'accueille que c'est impossible, j'ouvre la possibilité que ça soit possible. Parce que j'ai dit oui à ce que je crois impossible. C'est impossible dans cette vision de l'ego. C'est impossible lorsque je suis au fond de la cave, dans l'obscurité. Mais dès que je remonte les marches vers la lumière, ça commence à devenir possible. Et remonter les marches vers la lumière, c'est dire, eh ben oui, la vie, là, tu n'es pas arrivé. Ben oui, ben ok, tu n'es pas parfait, tu as choisi une expérience où, par nature, il y a de l'imperfection, puisque tu te sens hors du monde de la réalité, donc par nature, c'est imparfait. Eh bien oui, donc si je ne suis pas parfait, ben je l'ai choisi, c'est ok, et puis je peux, partant de là, rechoisir quelque chose de plus adéquat, qui me laisse en paix. C'est ça ce qui est adéquat pour moi. Parce que moi, lui demander si elle faisait une enquête, ça ne m'a pas laissé en paix, c'était clair. Ça ne m'a pas laissé en paix. J'étais en guerre contre elle. Je dis, mais pourquoi elle m'attaque? Il faut que je me défende. C'est pas ses affaires, ça ne la regarde pas. Mon ego, il a inventé toutes ces phrases pour inventer la victime. Et puis après... maintenant, je peux la croiser avec le sourire. Il n'y a plus cette charge. Parce que cette charge, c'est l'ego qui la fabrique. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui peut dissoudre cette charge dans l'amour. Toutes les peurs sont solubles dans l'amour. Hein, tu mélanges un peu, puis il n'y a plus de peur. C'est quoi l'obscurité, à part une absence de lumière? Ça n'a pas d'existence, l'obscurité. La lumière, ça a une réalité. L'obscurité, c'est une absence, c'est-à-dire c'est le sentiment qu'il n'y a pas de lumière. Mais ça ne donne pas de réalité à l'obscurité pour autant. La peur, c'est ça, hein. C'est le sentiment d'être coupé de l'amour. Ça ne donne pas à la peur une réalité pour autant. Si j'arrête de croire que je suis coupé de l'amour, hop, il n'y a plus d'obscurité. C'est immédiat. Et elle n'a jamais existé. C'est comme l'ego, c'est une croyance. Ça peut m'aider à donner plus de réalité à ma paix plutôt qu'à mon agitation. Cet exemple-là m'a beaucoup aidé. Hein, mes voisines, j'ai deux expériences comme ça avec mes voisines qui m'ont énormément aidé. Chaque moment où je quitte ma paix, c'est un piédestal pour trouver une occasion de revenir dedans. Quand je m'en aperçois, quand je donne de l'importance à l'état de témoin. Et j'en donne de plus en plus. Parce que ça m'aide beaucoup d'être témoin.
On peut peut-être revenir sur cette notion de « j'y arrive pas ». J'arrive pas à pardonner, j'arrive pas à me détendre, j'arrive pas à ceci, cela. Et effectivement, l'ego n'arrive à rien. À rien du tout. Parce que l'ego est basé sur la séparation. On lui a appris à se battre et à faire des stratégies. Et il est tout le temps en train d'avoir des objectifs qu'il n'atteint jamais vraiment et qui le satisfont jamais. Et donc, on n'arrive jamais à pardonner. Et c'est ce que voulait dire Jésus quand il disait « De moi-même, je ne fais rien, c'est le Père en moi qui agit. » Et parce que quand on dit « j'y arrive pas », qu'est-ce qui dit « j'y arrive pas » ? C'est l'ego. Parce que qui je suis est plénitude. Et il n'y a rien à atteindre. Donc, à chaque fois, j'ai choisi une expérience où, tout à l'heure, on a dit « les yeux du corps sont faits pour ne pas voir », c'est ce que dit le cours en miracle. Donc, je m'identifie à un corps qui a des sens et qui donc voit des choses extérieures, mais il n'y a pas d'extérieur. Et en plus de ça, je suis soumis à un temps que j'ai imaginé, mais qui n'existe pas. Donc, c'est énorme. Dans cette expérience, je semble être un ego, je semble être victime, je semble être séparé. Et ça fait... Et le problème, c'est pas d'avoir choisi cette expérience. Le problème apparent, mais il n'y en a pas, mais apparent, c'est de juger l'expérience et de me sentir coupable. Et effectivement, c'est ce que nous explique le cours en miracle, qu'il y a une profonde culpabilité par rapport à un passé imaginé et une profonde peur par rapport à un futur imaginé. Et toujours ces deux notions de culpabilité par rapport à un passé et peur par rapport à un futur. Et là, je me trouve dans cette expérience. Et je dis, mais j'y arrive pas, puisque j'ai ces croyances. Donc je ne peux pas, je suis en train de me servir de ces croyances pour essayer de m'en sortir. C'est ce que dit le cours en disant, vous ne cessez pour faire le ciel d'utiliser des moyens qui font l'enfer. Et ces moyens qui font l'enfer, c'est la séparation. Donc à chaque fois, vous imaginez davantage de séparation. C'est comme un entonnoir infernal qui s'enfonce indéfiniment dans l'horreur et dans l'échec. Apparent. Mais il n'y a pas d'entonnoir, il n'y a pas d'échec. Parce que qui nous sommes, et c'est éternel. Le reste n'existe pas. Ah, bon. Alors comme ça n'existe pas, et si vraiment c'est vrai, alors donc tout va bien maintenant, effectivement, tout va bien maintenant. Oui, mais alors je semble être grévé par ce passé. Je me sens coupable. Je me sens même coupable de m'être séparé. Et puis j'ai peur par rapport au futur, parce que voilà, j'ai peur. Oui, ben j'accueille ça. J'accueille ma culpabilité, j'accueille ma peur par rapport au futur. Et c'est dans l'instant présent, et j'observe que je ne vis que l'instant présent. Et donc, quand j'accueille, je suis dans l'amour. Donc enfin, le fait d'accueillir, c'est la seule attitude qui ait un sens dans ce rêve imaginaire, dans cette expérience qui provient de cette petite idée folle. Et même cette notion d'idée folle, souvent ça me culpabilise, parce qu'on m'a appris, quand c'est fou, ben c'est pas bien, c'est mal. Mais la pensée de séparation n'est pas mal. Ça, c'est encore une notion très importante, ça n'a rien de mal, simplement c'est impossible, c'est tout. C'est pour ça qu'on dit que c'est une idée folle, c'est une idée qui n'a pas de sens, c'est dans ce sens-là. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise et qu'il faut s'en sentir coupable. C'est une notion fondamentale, c'est-à-dire qu'on n'est pas coupable de jouer le jeu de la séparation, ou de tenter de jouer le jeu, et si nous n'étions pas qui nous sommes. Ce n'est qu'un jeu, comme des enfants qui s'amusent. Mais effectivement, ce jeu ne conduit qu'à, tôt ou tard, qu'à la souffrance. Alors bon, on en a fait le tour, et on arrête, c'est tout. Et on l'arrête comment ? Par l'amour. Et comment est-ce qu'on est dans l'amour ? En accueillant. Donc, en accueillant cette partie en moi qui ne sait pas comment s'en sortir. Et donc je dis effectivement, je ne sais pas comment m'en sortir. Donc, c'est pour ça que le cours nous dit, à ce moment-là, l'esprit a besoin de ta bonne volonté, de ton oui, c'est tout. Et l'esprit s'occupe du reste. Donc j'arrête d'essayer les stratégies. J'accueille ma culpabilité, j'accueille mes peurs, j'accueille des états que je jugerais difficiles, que je voudrais autres. J'accueille tout ça dans l'instant présent. Et effectivement, j'accueille le fait que, avec ma pensée d'ego, je ne peux rien faire. Ça commence vraiment quand je dis « je ne sais pas ». Je n'ai aucune... J'arrête. J'ai pas envie. J'ai envie d'avoir des stratégies, mais je m'aperçois que ça ne fonctionne jamais. Quelque part, je rends les armes. Et je vois ça chez tous mes frères et sœurs. C'est pour ça que Jésus nous dit dans le cours en miracle, la souffrance a des limites. Parce que ça devient tellement infernal pour beaucoup qu'on arrête et on pose les armes. Et maintenant, nous passons à un stade différent où on pose les armes sans souffrance. On pose les armes parce qu'on a, vraiment commencé à intégrer que nous ne sommes pas, nous ne pouvons pas ne pas être qui nous sommes. Et donc, devant toute situation, il y a comme un, naturellement un pardon, un accueil, un non-jugement absolu de tout. C'est ce que nous sommes en train de faire les uns les autres. C'est ce à quoi servent ces groupes de partage où finalement, ce n'est pas ce qui est dit qui est important. C'est l'attitude de chacun, qui est une attitude d'amour et d'accueil. Ceux qui écoutent cet enregistrement, bien, ce qui est important, c'est leur attitude dans l'instant présent. Et puis s'il y a des jugements par rapport à un tel, ou ce qui est dit ou pas, c'est ok, ça va. Mais de plus en plus, il y a observation. Ah tiens, je suis en train de juger. Tiens, là, je suis agacé. Tiens, là, j'aimerais que ça soit différent. Mais quand je fais ça, j'accueille. Quand je fais ça, je suis dans l'amour. Et donc, l'accueil, l'observation, l'amour, la présence, la paix, tout ça, c'est la même chose. Et c'est un... Et ça, c'est en moi. C'est déjà là. Et c'est pour ça que le... Avis aime bien citer une phrase du cours qui dit quelque part « Chacun va s'éveiller à son propre appel qui est déjà en lui. » On est déjà, en fait, on se réveille à qui nous sommes. Et, mais qui se réveille? Quelque part, personne. Il y a comme disparition de cette croyance à la séparation. Comme le brouillard qui s'efface devant le soleil du matin. Ça n'a pas, le rêve n'existe pas. Semble exister. Alors bien sûr, on va dire, mais oui, mais tout ça c'est intellectuel, en attendant dans mon quotidien. Là, dans le quotidien, c'est pareil. Je vais me servir de mon quotidien, je vais l'accueillir, je sais que c'est une illusion. Tout ce dont on parle, c'est illusoire, et c'est ce que nous dit le cours, y compris le pardon, c'est illusoire. Seulement, le cours précise bien en disant, c'est la seule illusion qui aide à sortir de l'illusion. C'est amusant, hein, c'est drôle, hein. Et donc on accueille, on embrasse cette illusion, on embrasse ce rêve de séparation, avec ses difficultés apparentes, mais on l'embrasse dans l'instant présent. Évidemment, ça suppose une confiance totale. Ça suppose de dire, je ne sais pas, ok, Saint-Esprit, tu me gères la journée, je vais te tenir la main, je vais probablement, il est possible, tomber à maintes reprises, mais toi tu sais que quelque part je ne tombe jamais parce qu'il n'y a que qui je suis qui a un sens. Et donc même mes chutes ne sont pas des chutes, l'échec n'existe pas, le manque n'existe pas, ça ce sont mes croyances. Alors je te tiens la main et je te laisse me guider pas à pas. Et c'est ça dont l'esprit a besoin, parce que l'esprit c'est nous. Et l'esprit ne va pas contre lui-même. Donc encore une fois, il y a un jeu fantastique avec l'esprit que nous sommes, et en même temps... Nous pouvons imaginer ce jeu de la séparation, et c'est pas, l'esprit ne s'oppose pas à lui-même dans ce jeu. Et donc c'est comme si l'esprit se réveille lui-même, c'est une façon de parler, bien sûr, il n'a pas besoin de se réveiller. Mais c'est un double jeu, c'est un jeu qui est joué par un seul acteur qui est nous. Et c'est un jeu d'amour incroyable. C'est incroyable l'amour, cet amour. C'est pour ça que d'ailleurs que nous avons des informations d'autres mondes extraterrestres qui nous disent « Mais on est admiratif de ce que vous faites sur la Terre parce que, quelque part, vous avez accepté, vous avez accepté de jouer un jeu extraordinaire où vous avez accepté de plonger dans l'obscurité et vous êtes en train de ressortir dans la lumière. Quelle merveille !» Voilà. Si ça peut aider, tant mieux. Mais ça, c'est une façon de voir. ce qui est important pour chacun d'entre nous, c'est ce qui nous aide, nous, dans notre chemin. Alors, tel concept m'aide pas, tel concept m'aide, mais finalement, au bout du compte, la seule chose qui importe, c'est l'amour. Et j'avais, au début de ce groupe, on a parlé de ce soir, que c'était orienté vraiment sur cette notion d'amour, et c'est fondamental. On ne se trompe jamais en aimant. On ne se trompe jamais en ouvrant son cœur. Alors souvent on dit, mais il faut l'ouvrir jusqu'à un certain point, il ne faut pas aller trop loin. Mais non, puisqu'il n'y a que le cœur. Donc il n'y a jamais de limite à l'amour. Et donc, à chaque situation, chaque instant, je ne me trompe jamais en aimant. Je ne me trompe jamais en aimant, et en aimant à l'infini. C'est-à-dire, je ne mets pas de limite. Ce n'est pas un infini dans le temps. C'est un infini en intention. Donc dans l'instant présent, je dis vraiment, je ne sais rien, je choisis la vérité, je choisis l'amour, et je laisse l'amour me guider. Et donc, j'abandonne, je lâche mon passé, je le laisse aller, mes peurs du futur, j'accueille, donc je le laisse aller, je ne me bats pas contre, je laisse l'amour prendre les rênes. Et je choisis l'amour, et par rapport à la peur, et je laisse aller les peurs. Mais je les accueille. Les laisser aller, c'est surtout pas les contrer. C'est surtout pas me culpabiliser par rapport à mes peurs. Je choisis l'amour. Comme dit Yavi souvent, que ferait l'amour à ma place? Que ferait l'amour à ma place? Comment est-ce que Dieu voit la situation dans laquelle je me trouve? Est-ce que Dieu est inquiet? Est-ce que Dieu manque de quelque chose? Comment Dieu me voit? Il s'émerveille, il est heureux. Et moi, j'ai l'impression peut-être de manquer, de ne pas être aimé, d'être seul, de manquer de relations, etc. D'être en difficulté financière, sociale ou autre. Et comment Dieu me voit? Il me voit dans une lumière incroyable. Eh bien, je choisis cela. Voilà. Je choisis sa vision. Et je lui demande de me rappeler sa vision. Qui est ma vision, mais je l'ai oubliée. C'est pour ça que le cours insiste toujours en disant « Tu es le Fils de Dieu. Tu es l'extension de Dieu. Et tu es le rayon du soleil. Tu es la vague par rapport à l'océan. Et tu n'es rien d'autre. Et tu es tout. » Voilà. Et donc, cette notion d'amour, le fait de l'exprimer comme on le fait ici dans le groupe, c'est vraiment... créateur. C'est vraiment créateur, c'est-à-dire ça étend l'amour. L'amour s'étend lui-même. Et c'est en ce sens que, voilà, j'en profite pour remercier à la vie ceux qui sont là et ceux qui écoutent, parce que c'est merveilleux de partager ça. C'est à chaque fois une occasion justement de pratiquer. Et à propos de cette pratique, souvent on dit oui, mais c'est bien gentil, mais dans les groupes, c'est facile. Mais après ça, on se trouve seul dans des situations. Dans son quotidien, eh bien c'est la même chose, parce que c'est une impression d'être seul, mais le quotidien il est géré par l'esprit, et donc l'esprit est autant là dans un groupe comme ici ce soir ensemble que dans un quotidien au milieu d'un supermarché ou même dans un café en fumée ou sur n'importe quoi, n'importe quel endroit qui paraîtrait vil, sale ou éloigné de la vérité. Rien n'est éloigné de la vérité, puisqu'il n'y a que la vérité. Dieu est tout ce qui est. Donc, l'apparence physique que nous avons, par exemple, mettons un casino, par exemple, il y a une angoisse, il y a un besoin de gagner, mais ça n'est que Dieu, ça n'est que... Donc je vais et je suis dans la lumière, et tout est lumière, où que je sois, dans n'importe quelle expérience. Y compris quand je vois des canons qui tirent, je peux faire silence et demander à Dieu, comment vois-tu la situation? Et Dieu dit, je me réjouis de la beauté de tous mes enfants sans aucune exception. Et l'amour ne fait pas de différence, l'amour n'a pas de préféré, il n'y a pas de chouchou, il n'y a pas de gens plus avancés que d'autres. Il y a des apparences de rôle, mais qui nous sommes, ce n'est pas le rôle. Nous sommes le Fils de Dieu. C'est pour ça que le cours Jésus parle du Fils. C'est un Fils, il n'y a que le Fils, c'est-à-dire l'extension de Dieu, l'extension de ce qui est, l'extension de l'amour. Et ça, c'est qui nous sommes. Et donc, l'amour, ce qui est créateur à l'infini, et comme nous sommes cela, nous sommes créateurs à l'infini. Donc, en fait, nous ne savons qu'aimer. Et donc, dans ce monde apparemment en difficulté, chaotique, eh bien, il n'y a que l'amour. Et c'est cette vision-là que je veux, et c'est à ce moment-là que cet univers disparaîtra, dans la vision que j'en ai. Comme dit le livre, encore une fois, de Gary Renard, et l'univers disparaîtra. C'est très concret. C'est très concret. Il ne s'agit pas d'attendre que l'univers disparaisse. Il s'agit de vivre l'amour dans la seconde présente. Et ça, c'est toujours possible. Je peux toujours rechoisir, c'est ce que nous dit le cours. Frère, rechoisis, rechoisis. Ah oui, là j'ai oublié, tiens, j'étais bien dans l'ego, je me suis bien fait piéger. Ah, bon, je rechoisis. Je rechoisis maintenant, mais rechoisis avec l'esprit. Et c'est pour ça que quelquefois le cours va nous dire aujourd'hui, allez, aujourd'hui je ne vais rien faire sans l'esprit. Bien sûr, je prends cette décision. Et probablement, je vais faire des tas de choses sans l'esprit, je vais oublier, bien sûr, mais ça ne fait rien. Ça fait rien, je ris, je m'amuse. Je joue le jeu de l'amour en sachant que je ne suis jamais seul. Même si j'ai l'impression d'être seul, si j'ai l'impression d'oublier, de ne pas y arriver, bien sûr, puisque j'ai choisi une expérience d'ego. Donc c'est ok, c'est évident. Et donc ça devient amusant. Ça devient amusant. Donc je choisis le jeu de l'amour et je le choisis dans la joie. Et dans le vrai pardon, c'est-à-dire tout va bien. Tout va bien pour tout le monde. Tout le monde.
Moi, je suis guidé à partager à propos des événements, des manifestations qui se passent un peu partout sur la planète. Et je suis guidé à voir de quelle manière moi je les perçois comme des outils. Des outils d'éveil utilisés par l'esprit. Et je vois des reportages en vidéo et je vois un homme, un égyptien, je crois. Et je vois, quand il est interviewé, mais dans quelle détermination il est à sortir de cet état de servitude. Et il dit, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur, et trois fois. Et je vois qu'il est prêt à mourir, et ça n'a aucune importance pour lui. Il est tellement déterminé que la mort ne devient plus importante. Et il dit, on est libre, on est libre. Et c'est glorieux, c'est radieux. Et pour moi, ce jeu de théâtre qui met un dictateur et puis des gens opprimés, ou ou quelqu'un qui essaye d'utiliser du pouvoir, hein, c'est pas forcément un dictateur. Eh bien, ça suscite l'appel à s'éveiller, ça, que je vois dans cet homme-là, au point que mourir ou pas mourir, ça n'a pas d'importance. Je sers la cause du vivant, même à travers ma mort. Et pour lui, c'est secondaire. Par rapport à la détermination, la mort, elle est secondaire. Il est prêt à servir l'éveil en mourant. Donc, je vois que c'est utilisé par l'esprit quand je vois cet appel à s'éveiller, mais en plus qui se communique, qui fait un effet domino dans la même population et un effet domino d'un pays à l'autre. Et là, je me dis, voilà, c'est comme ça que on a joué à placer quelqu'un dans le rôle du dictateur pour trouver la beauté que c'est de se réveiller, de sortir de ça, de trouver que on est libre, on est complètement libre, de trouver que il n'y a plus de peur. Tout d'un coup, dans cette situation-là, il y a quelque chose d'effervescent qui dépasse l'ego. Pour moi, ça dépasse vraiment l'ego. J'étais impressionné aux larmes de voir cet homme. C'était d'une vérité, mais alors, il y avait une détermination telle que c'était divin, quoi. C'était surhumain. Qu'il meure ou pas, ça n'avait plus d'importance. Il était prêt à aller jusqu'au bout. Et il savait que quand il fait ça, il est au service. c'est plus important. C'était comme si plus rien ne pouvait l'arrêter. Et plusieurs personnes parlaient de la liberté, que c'est fini, on ne peut plus revenir en arrière. Et même si tout ça c'est illusoire, je vois que tout ça c'est que des manifestations, des rappels à se réveiller. Hein, je t'opprime, et quand je t'ai suffisamment opprimé, alors je pousse sur le bouton, te rappelle à te réveiller, à qui tu es. À celui qui ignore la peur parce qu'il ne vit pas dans la peur, à celui qui ignore la mort parce qu'il a conscience que ce n'est pas en mourant que la vie va s'arrêter. Donc ça prend des allures et je ne sais pas pourquoi, je pressens qu'il y a une effervescence qui va gagner la planète entière. D'ailleurs, il y a eu récemment un message de Saint-Germain que je n'ai pas encore diffusé à propos de ces événements, qui dit aussi, c'est à suivre en Amérique du Sud et c'est à suivre ailleurs dans le monde. Mais peu importe. Hein, c'est pour ça que je suis vraiment guidé à suivre ces informations, même très tard dans la nuit, heure par heure, juste pour me délecter de ces appels à s'éveiller, qui fleurissent comme ça, qui poussent comme des champignons après la pluie. Et quand je disais la Chine bannit le mot Égypte de ses réseaux sociaux, chaque fois qu'on demande quelque chose avec Égypte, alors la réponse c'est en raison des lois actuelles, votre recherche ne peut pas aboutir. Je riens beaucoup. Ce qui se passe en Égypte, apparemment, a des répercussions sur ce qui se passe en Chine. Donc il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite. Quand il y a un appel à s'éveiller en Égypte, c'est une menace pour un gouvernement chinois. C'est impressionnant quand même pour moi. C'est impressionnant parce que il y a une peur terrible du gouvernement chinois de perdre ce pouvoir. Cette peur, elle est à ce point forte, hein, c'est un super ego, hein, le gouvernement, qu'il faut interdire, mettre des lois, réprimer, enfermer, tuer, torturer. Pourquoi ? Pour garder le pouvoir, la mainmise sur des personnes. Et que lorsqu'il se passe un éveil quelque part dans le monde, et moi j'appelle vraiment ça un éveil à l'être libre et immortel que nous sommes, et lorsqu'il y a un éveil quelque part dans le monde, alors ce gouvernement sent que cet éveil est très communicatif et met en danger le système qu'il a mis en place pour garder le pouvoir. Et bien que tout ça se passe dans l'illusion, pour moi c'est de la plus haute importance, parce que c'est des signaux indicateurs que s'il y a bien une chose qui se communique facilement, c'est l'éveil. C'est « Ah, c'est vrai, ben moi aussi j'en ai marre d'être opprimé. Moi aussi je veux me rappeler de qui je suis. Moi aussi je suis libre. Moi aussi j'ai pas peur. Moi aussi je suis immortel. » Et que l'union fait la force. C'est-à-dire que quand je suis avec mes frères et sœurs, alors j'ai une puissance phénoménale, hein, parce que je m'unis avec les esprits. Donc, voilà, je sens que ça s'accélère et c'est pas anodin. Pour moi, l'accélération, c'est aussi l'accélération de personnes qui ensemble se rappellent qui elles sont, et ça devient très puissant. Et c'est comme une traînée de poudre. Et je suppose que cette traînée de poudre qui est l'éveil des consciences ne va faire que s'accélérer à partir de... D'ailleurs, c'était déjà en route avant. Hein. Il fallait que l'étincelle allume la mèche pour que le baril de poudre ou le feu d'artifice commence à se déployer. Et c'est pour ça que je suis guidé à suivre ces événements. Ça me met en joie de voir ces appels à s'éveiller aussi puissants. Il y avait une puissance dans ce témoignage qui était phénoménale.
Merci à vie de ce partage. C'est quelque chose qui me vient, qui est délicat à exprimer. Un peu délicat à propos de ça. C'est que tout se passe pour chaque individu, puisque nous avons choisi une expérience individuelle. Et donc tout se passe dans notre esprit. Et c'est là que se trouve la guérison, et c'est là que se trouve le changement de vision. Dans le changement de vision, il y a observation d'un monde planétaire et cosmique, enfin parlons de la planète, avec des gouvernements, avec des structures sociales, familiales, locales, etc. Et puis des changements dans les formes. Mais pour l'individu que je crois être, et nous avons choisi une expérience où nous avons l'impression, l'illusion d'être un individu particulier. C'est en moi que ça se passe. Donc les mouvements sociaux sont un reflet de ce qu'il y a en moi. Et c'est la seule chose qui est importante, c'est comment je vais les percevoir. Et si je me dis, bon, très bien, j'attends que les autres se réveillent, où j'attends ceci, cela, où je trouve que c'est une bonne nouvelle, mais ça c'est une mauvaise nouvelle, je suis à l'extérieur, je ne suis pas en moi. Et donc ce qui est important, c'est comment je vois, qu'est-ce que ça me fait à moi, à l'intérieur, dans mon esprit. Est-ce que je choisis la vérité, ou est-ce que je choisis l'illusion? L'illusion, c'est la séparation. L'illusion, c'est qu'il y a des choses à changer. L'illusion, c'est de croire qu'il faut changer le monde. Non. Alors quand, par exemple, Avi vient de partager, il observe des changements. Il observe, et puis ça lui réjouit le cœur. Ok, on y va joyeusement. Seulement, on n'est pas dupe. On n'est pas dupe. Et quelque part, on ne dit pas que c'est bien ou mal. On dit, tiens, ça me réjouit. Tiens, j'ai vu cet homme-là, par exemple, à la télévision, et qui disait, j'ai pas peur de mourir, j'ai senti une émotion, une joie, etc. Ça, c'est un partage, c'est mon ressenti. Mais je ne suis pas dupe. Que, en fait, tout va bien et tout a toujours été très bien. Et que les événements qui semblent se passer ne sont qu'un produit annexe de ce qui s'est déjà passé en esprit. Et que si justement on va vers une planète de grande harmonie dans des siècles à venir, qui justement va faire l'admiration de l'univers entier, c'est parce que à l'échelon, disons, individuel, il y a un réveil. Et ça ne concerne que moi. J'attends personne. J'attends pas les autres. C'est fondamental, ça. Parce que ça se passe en moi. C'est pour ça que le cours dit combien il en faut pour sauver le monde. Et la réponse, c'est un seul. Donc, ok, très bien, je me réjouis, je suis heureux, je regarde la télé, je regarde, je me réjouis, je partage. Mais je ne donne pas de valeur aux événements. J'observe que ça me réjouit, j'observe que bon, ça fait bouger des choses apparemment, mais en fait, ce que je vois n'est qu'un reflet de ce qui est en moi. Et c'est à ce niveau-là que ça se passe. C'est pour ça que le cours nous dit toujours, ne confondez pas les niveaux. Ne confondez pas les niveaux. Ça se passe au niveau de l'esprit. Il n'y a qu'un seul esprit, et dans cet esprit, il y a eu cette idée de séparation qui est venue, la petite idée folle. Et de là a découlé l'univers entier que vous voyez. Et là où il y a eu l'erreur de la séparation, qui n'a rien de mal, eh bien il y a la guérison qui est placée par là où s'est produit l'erreur, c'est-à-dire dans l'esprit. Ce n'est pas dans la forme. Les formes sont neutres. C'est-à-dire les changements de gouvernement, les nouvelles façons de vivre ensemble, c'est neutre. C'est un reflet, disons, de la somme des consciences individuelles qui se réveillent. C'est très important, ça. Parce que c'est très important pour qui? Ah, pour les autres. C'est important pour moi. C'est important pour moi. Parce que si je continue à regarder à l'extérieur et à donner des valeurs, quelque part je perds le message. Et je ne suis plus dans qui je suis. Et donc je retarde cet éveil. C'est vraiment ça. Donc je ne confonds pas les niveaux. Et la séparation s'est produite en esprit. Et la guérison est en esprit. Ce n'est pas l'esprit des autres. C'est mon esprit, c'est qui je suis. Donc, ça ne concerne que moi. C'est vraiment... C'est simple, hein. Mais... Et c'est... Alors, Et c'est vraiment une clé fondamentale parce que ça me permet effectivement d'aborder toute situation dans la paix. Je peux choisir la paix au lieu de cela, je peux choisir la paix au lieu de cette vision, je peux choisir la paix, je peux choisir le pardon par rapport à mes frères et sœurs, à me réjouir de ce qui se passe, quoi qu'il se passe, quoi qu'il se passe. Alors bien sûr, c'est comme un bon repas, parce qu'on peut manger, j'ai faim, j'ai un sandwich un peu dur, un peu avarié, très bien, mais j'ai très faim, je vais le manger. Je peux aussi avoir un repas merveilleux. Et je me réjouis du repas merveilleux. Et donc je me réjouis effectivement d'une planète qui va évoluer vers une grande harmonie avec des changements. Mais je me réjouis dans l'amour, et jamais dans la revanche. Que dans l'amour, en voyant une pièce de théâtre qui évolue, où finalement l'acteur de la pièce de théâtre, le vrai acteur, c'est l'esprit que nous sommes tous. Et donc les individualités disparaissent, les différences disparaissent dans mon esprit. Et c'est là que l'univers disparaît. Comme dit Gary Renard, le titre de son livre, et l'univers disparaîtra. C'est dans mon esprit que ça disparaît. C'est fondamental. Et comment ça disparaît? C'est parce que je choisis le pardon, l'amour, l'accueil, le non-jugement, la paix d'instant en instant. Voilà. Et merci de pouvoir partager ça parce que, eh bien voilà, merci. Ça aide de le reverbaliser constamment.
Si j'ai bien compris, donc le positionnement par rapport à tous ces événements, c'est de les voir, de ne pas juger. Mais à un moment, moi, j'ai lâché sur ton explication. Quand on voit ce qui se passe, qui est un réveil quelque part là-bas, qui est le réveil de l'esprit, c'est ça que pas qu'il faut, mais le concept, la conclusion, ce qu'il y a à voir, c'est ça, en gros.
Oui, mais voir, ne pas juger, comme dit Ali, on s'aperçoit que tout est un instrument d'éveil. C'est-à-dire, je m'émerveille de ce qui se passe. Et donc, ça me renvoie à moi-même, ça me renvoie à mon propre éveil. Parce que je choisis de regarder tout ça avec les yeux de l'amour. Et donc, ah, c'est merveilleux, ces changements, ces mouvements qui se passent, ces réveils chez les gens, ils ont une nouvelle manière de communiquer entre eux, mais je vois l'amour. C'est pas moins bien ou c'est mieux, c'est l'amour. Et donc, tout devient un instrument de réveil. C'est-à-dire que c'est ma vision qui change, et quelque part, je vois l'amour, et je vois aussi mes réactions. Je vois mon émerveillement, je peux voir mes jugements par moment, j'observe, ok, ça me réjouit, au contraire ça me fait de la peine, ça me perturbe, mais j'observe. Donc cette pièce de théâtre qui se passe dans ce monde devient vraiment un instrument d'observation, et le fait d'observer, eh bien, c'est aimer. Et c'est cette observation neutre. Mais neutre ne veut pas dire que je ne me réjouis pas. Par exemple, nous sommes ici autour de cette table, on nous dit mais c'est merveilleux cette soirée, quelle merveille, nous sommes bien amusés, quelle joie d'être ensemble, bien sûr. Et on se réjouit. Donc je regarde les nouvelles à la télévision, je me réjouis de ce qui se passe. Et je me réjouis quoi qu'il se passe. Voilà, c'est ce que fait l'esprit. C'est ce que fait Dieu. Dieu, il dit toujours, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je me réjouis. Quoi qu'il se passe, sur un champ de bataille, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je me réjouis. Faut faire comme eux. C'est pas un petit message que nous partageons ici. Et pourtant, c'est qui nous sommes. Et qui nous sommes, c'est ne change pas. Qui nous sommes, c'est qui nous sommes. La vérité, l'illusion et l'illusion.
Voilà, j'observe ce qui se passe sur la planète tout en restant. Tout en restant dans l'idée que c'est une illusion. Hein. Cette illusion, comme le pardon, qui est une illusion aussi, est utilisée par l'esprit. Et je me fixe sur ce que l'esprit utilise plutôt que sur l'illusion. Tout en l'observant, je me rappelle que c'est un jeu. et que ce jeu a une utilité, mais la forme n'a aucune importance. C'est ce qui se passe dans l'esprit, c'est ce qui se passe, c'est les guérisons dans l'esprit, c'est les rappels à qui nous sommes qui ont une importance, et c'est pas la forme que ça prend. Donc moi j'observe les formes, et quand je vois que ce que j'appelle cette énergie de réveil, c'est là que ça me réjouit, hein. Et c'est pas la forme que ça prend, et je me dis ah ben magnifique là, tout ce scénario dictateur opprimé là, waouh, a joué son rôle magnifique, l'esprit a utilisé ça pour faire un scénario de réveil général, hein, à grande échelle. Donc à aucun moment j'oublie que les formes n'ont pas d'importance. Mais je peux, comme disait Sylvain Didelot dans son message d'importance du oui, j'observe comme je tourne les pages d'un livre, j'observe ce qui se passe, comme je me documente. Hein, c'est pas réel, quoi. Je perds pas de vue que c'est un jeu, à aucun moment. Sinon, bah, je m'enfonce dans l'illusion, hein, si je rentre dans le jeu. J'oublie que c'est une pièce de théâtre.
Mais par rapport toujours à ces événements, comment faire en sorte, où est-ce que nous, on peut intervenir justement, alors en acceptant déjà, et en est-ce qu'on ne peut pas les aider d'où on est, dans l'esprit aussi alors.
Et là tu poses la question de la guidance, parce qu'effectivement tu viens de dire j'accueille, et ensuite l'action. Mais effectivement l'accueil vient avant l'action. C'est ce que j'appelle le féminin qui prend la place centrale, la sagesse. Je reçois le don de Dieu, j'accueille qui nous sommes. Et ensuite, j'écoute ma guidance. Et la guidance, elle est différente pour tout le monde. Et donc, tiens, j'ai envie effectivement de prendre l'avion et d'aller dans tel pays. Au contraire, je reste chez moi. Tiens, j'ai envie d'envoyer de l'argent. Au contraire, non, je ne sens pas. Et donc ça, c'est la guidance. Et la guidance, elle est différente pour chacun. Mais avant la guidance, il y a qu'est-ce que je choisis? Je choisis la vérité, je choisis Dieu, et je reprends la phrase, les cinq phrases que Avi remet toujours au début des groupes. Je suis ici, je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Et la troisième qui est fondamentale, je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire ou de ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Chacun dit ça. Donc je suis dirigé dans l'action. Et donc il n'y a pas d'action type. L'un ne bouge pas de chez lui, l'autre sort, fait quelque chose, l'autre prend l'avion, l'autre fait je ne sais pas quoi, l'autre décide de se marier, de ne pas se marier, etc. Et donc dans une pièce de théâtre fantastique où j'ai confiance que je suis guidé d'instant en instant. Et donc tu viens de poser la question, comment je peux aider ces gens-là? La réponse c'est en les voyant dans l'amour. Après ma guidance, c'est autre chose. Et je dis à l'esprit, bon maintenant, si j'ai une action concrète à faire, tu me guides, mais j'ai confiance. Et c'est important parce que à chaque fois que j'ai une question sur quoi faire, si je regarde dans la seconde présente, je n'ai pas besoin de réponse. Ma réponse dans la seconde présente, c'est comment je vois la question, je le vois avec les yeux de l'amour. Et après, dans la seconde suivante, ou le lendemain, ou plus tard, je vais te guider. L'ego, il s'accroche à la guidance tout de suite. Il veut une réponse, il veut une stratégie. Et en fait, on s'aperçoit les uns les autres, on partage ça beaucoup, que de plus en plus, les événements, les choses semblent se faire en dernière minute. C'est l'esprit qui fait ça, c'est fait exprès parce que ça nous apprend la confiance, justement. Donc ça nous apprend à vivre ce dont nous parlons. Ou, effectivement, on nous a appris à chercher des stratégies. On nous dit, mais il n'y en a pas, laissez faire l'esprit. Dans la fameuse parabole de Crillon, qui s'appelle Le Retour, avec Michael et Thomas à l'intention pure, c'est-à-dire l'intention pure, il y avait une intention de réveil. Et bien dans la première maison, il y a sept maisons initiatiques. La première, c'est la maison bleue. Et c'est la maison des cartes géographiques, des cartes des plans, pour savoir où on est. Et alors, il arrive, et puis on lui donne une carte, et il part en chemin. Et là, il a une tempête, il croit qu'il va mourir. Mais la voix de l'ange lui dit, regarde ta carte, regarde ta carte. Alors, et avec beaucoup de mal, il extirpe sa carte, alors qu'il va mourir d'une telle tempête. Et puis, il ouvre la carte, il voit sur cette carte écrit, vous êtes ici, c'est tout, il n'y a rien d'autre. C'est fantastique, c'est extraordinaire ce message. Parce que c'est ça le message, on est ici et maintenant et tout va bien. Alors il est là et quelque part, et puis, donc il y a cet appel à la confiance, j'ai confiance maintenant, alors je suis dans une tempête incroyable, j'ai l'impression que je vais mourir, j'ai confiance. Et par cette confiance, il entend une voix qui lui dit, regarde derrière toi à droite. Il se retourne et il voit une petite grotte. Alors il va dans la grotte et il est à l'abri. La tempête s'apaise et il repart après dans le soleil. Et c'est vraiment un chemin initiatique. Et cette notion d'écart, cette notion de vous êtes ici, c'est fondamental. C'est fondamental. Donc, à ta question, comment je peux les aider? Eh bien, je peux les aider avant tout et en premier lieu en étant dans l'amour et dans l'accueil. C'est fondamental. C'est en esprit que ça se passe. Et ce n'est pas à l'extérieur, c'est dans mon esprit. Et ensuite, je suis guidé à telle ou telle action. Chacun a son action. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise action. L'un est policier, l'autre fait un chèque, le troisième est banquier, je ne sais pas, n'importe quoi. Chacun a son rôle parfait. C'est très important, une hiérarchie entre eux. Ça se fait en esprit, et puis ensuite, il y a la guidance. C'est ce que dit Gary Renard à toutes ses conférences, tous ses ateliers. Il parle de la manière de voir le monde. C'est comme un écran de cinéma, et on voit donc ce qui se passe, et on dit comment je voudrais changer ça. Alors on va dans l'écran, on prend un couteau, on découpe l'écran, mais ça ne sert à rien. Il faut s'occuper du projecteur. Et le projecteur, c'est mes pensées. C'est la façon dont je vois le monde qui va changer. C'est donc, disons, le monde, c'est le reflet de mes croyances. Et comment je vais aider les autres en étant dans l'amour? Je répète, et ensuite j'ai ma guidance. Ça, c'est concret, hein, c'est très concret. Très, très concret. Très concret. Cette notion de confiance, elle est fondamentale. C'est pas au hasard si, dans le manuel pour les enseignants, au chapitre 4, et qui parle des caractéristiques des enseignants de Dieu, bien Jésus nous dit, la première des caractéristiques, c'est la confiance. Ça vient avant l'action. J'ai confiance que, comme dit Ali, je n'ai pas à me soucier de quoi dire ou quoi faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Ah, évidemment, l'ego n'aime pas ça, hein, parce que l'ego aime bien saisir une stratégie. Mais là, je lâche tout. Et je dis, comment je vais aider, je ne sais pas. Je reçois un coup de fil de quelqu'un qui me dit, écoute, j'ai un problème, je voudrais que tu m'aides. Ben, je commence par, j'écoute. Mais je dis, je ne sais pas, je vais être guidé. Alors la conversation se prolonge, la personne exprime ses peurs, je dis que je peux mieux, mais qu'est-ce que je fais là au téléphone? Je lui dis, je suis guidé. Et d'instant en instant, je suis guidé. Donc je m'occupe de moi. Et ce que dit la personne, ou ce qu'elle fait, ce n'est pas mon problème. Je m'occupe toujours de ma guidance, de ma confiance d'instant en instant. Voilà. Et à chaque fois, eh bien, quand je fais ça, eh bien, souvent, j'observe des miracles. C'est pour ça qu'on parle d'un cours en miracles. C'est-à-dire, j'observe des dénouements inattendus. Tiens, j'aurais jamais pensé. Ou la personne qui paraissait totalement perturbée, tout d'un coup, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, dit « Oh, merci, je me sens en paix maintenant, merci. » Je raccroche. Et, par exemple, hein, mais ce n'est pas mon affaire. Moi, je me suis occupé simplement de mon esprit, c'est-à-dire d'être accueillant d'instant en instant. J'accueille, je m'occupe d'accueillir ce qui est vrai. Et donc, je me suis aperçu qu'il y a eu une action que j'ai simplement observée, c'est-à-dire que je suis resté au téléphone 20 minutes, par exemple, je prends cet exemple, j'aurais pu raccrocher avant, je n'ai pas senti, puis finalement, c'est la personne qui va me dire telle ou telle chose. Et puis même si elle me raccroche au nez, elle me raccroche au nez, ça n'a aucune importance. Donc l'action n'a pas d'importance, l'action n'a pas de valeur. Voilà une notion difficile à admettre pour l'ego. Ce qui a de valeur, simplement, c'est mon état d'esprit. C'est le rappel de qui je suis, c'est-à-dire l'éveil à qui je suis. Et d'ailleurs, quand on regarde tous les messages qu'on reçoit de l'univers et de la hiérarchie cosmique, christique, il ne nous parle jamais de la valeur de l'action, il nous parle toujours de notre état de conscience, de notre état d'éveil, de notre choix de choisir la vérité par rapport à l'illusion. Il ne parle que de ça, que de l'amour, bon, que de la peur, etc. Mais c'est que ça. C'est intéressant. Ben, l'action n'a pas d'importance. Et ta question, parce qu'on se la pose tous, comment je peux aider des gens qui sont en difficulté? Eh bien, je dirais, en demandant à l'esprit de voir qu'ils vont très bien, et ensuite, peut-être que je vais avoir être guidé à faire telle ou telle action. Ça, c'est, bien sûr, c'est pas nié. Ça fait partie du jeu. Et le jeu est joué parfaitement par l'esprit. Nous sommes acteurs dans le jeu. Mais maintenant, nous nous réveillons et nous embrassons l'expérience. Et comme disait ce message que j'ai reçu avec Caroline et moi le 2 juillet 2009, eh bien, nous choisissons, en embrassant complètement notre expérience de plus en plus et en l'aimant, nous choisissons que ce n'est pas réel. Donc, rien n'est mal. Et donc, à ce moment-là, nous faisons ce que nous faisons, mais avec un but différent. Et qu'est-ce que ça veut dire, le but différent? Ça veut dire qu'avant, c'était le but de l'ego. Donc, on embrasse l'expérience et on essaye justement de changer le monde, d'aller aider les gens, de donner de l'argent, etc. Ok? Très bien. Mais c'était un but de peur pour essayer d'arranger les choses. Et c'est ça qui crée davantage de séparation. Je n'ai pas dit qu'il était mal d'envoyer de l'argent ou de faire des actions, mais c'est l'intention avec laquelle on le fait qui est importante. Parce que maintenant, on a un but différent, et le but, c'est une nouvelle intention, c'est une intention d'amour, où tout va bien. Et donc je suis guidé, donc j'envoie de l'argent, mais je sais que ça n'a pas de valeur. Mais je le fais parce que je suis guidé. C'est clair, hein, c'est vraiment ça. C'est un but, c'est un nouveau but, et c'est le but de l'amour qui sait que tout va bien, et qui s'amuse dans le jeu à faire ce qu'il ressent de faire.
Voilà, je vais clore ce groupe. Je me sens guidé aussi à le clore avec une phrase. On pourra en parler après la fin, si vous voulez. La seule manière d'aider quelqu'un, c'est de lui montrer l'exemple d'une personne rayonnante. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine.